Voilà, je vous remercie d'abord de m'avoir invité à vous parler. C'est la première fois que je viens vous voir, je crois. Je vais vous présenter les dernières nouveautés, la situation actuelle en 2016 sur le traitement du syndrome de Sjögren, qui a bien évolué, c'est-à-dire on a pas mal de nouvelles choses qui peuvent aider considérablement les patients. Je vous dis d'emblée que malheureusement, on n'arrive pas à guérir complètement tous les patients, mais on arrive à faire beaucoup chez beaucoup de patients. Je voulais encore m'excuser d'abord pour le retard. J'aurais dû venir plus tôt, mais j'ai eu un empêchement, ça c'est la première chose à dire. Et puis, une autre chose, c'est que je propose que ce soit le plus interactif possible, donc n'hésitez pas à m'interrompre, à poser des questions au moment où défile la diapositive, de manière à ce que plus enrichissant pour vous et pour moi. Donc, allons-y de manière très, très ouverte. Alors voilà, le syndrome de Sjögren, donc, tient son nom. J'imagine que vous connaissez ces deux personnages, hein, de Gougereau, Henri Gougereau, qui était un dermatologue français, et de Henrik Sjögren. Donc, on dit généralement le syndrome de Gougereau-Sjögren, surtout en France. Mais j'imagine que vous savez ça mieux que moi depuis que vous connaissez un peu votre maladie. Et puis, il y a des personnes illustres que vous connaissez probablement aussi qui ont souffert de cette maladie, et en particulier Venus Williams. Et c'est intéressant parce qu'elle a dit des choses qui reflètent vraiment très très bien la vie des patients avec un syndrome de Sjögren. Donc, la traduction de ce qu'elle a dit dans USA Today en 2011, c'est « Je suis vraiment déçu d'avoir à me retirer cette année de l'US Open ». J'ai récemment été diagnostiqué avec le syndrome de Sjögren, une maladie auto-immune chronique. J'imagine que vous êtes tous, familiers avec le terme auto-immun. Hein. Auto-immun, c'est une maladie dans laquelle le système immunitaire se retourne en fait contre l'organisme avec la production d'auto-anticorps et puis de lésions de des glandes salivaires, des articulations, etc. Donc, elle parlait de sa maladie auto-immune chronique qui affecte son niveau d'énergie, c'est vraiment très 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 fréquent dans le syndrome de Sjögren, et provoque de la fatigue et des douleurs articulaires. Ce sont les autres manifestations classiques, en plus de la sécheresse oculaire et buccale. Elle dit « Je suis reconnaissante d'avoir enfin un diagnostic », parce que ça, c'est un des gros problèmes du syndrome de Sjögren, c'est qu'il n'est pas toujours facile à diagnostiquer, surtout au début de la maladie. Et il y a énormément de patients qui traînent, si je puis dire, leur maladie pendant des années avant de recevoir ce diagnostic. Et ça a été son cas. Donc, elle était très reconnaissante envers les médecins qui avaient finalement posé le diagnostic. Et elle est maintenant, dit-elle, concentrée sur la possibilité d'aller mieux et bientôt revenir sur les cordes. Et ça, c'est ce qu'elle disait donc en 2011. Alors, ça peut paraître très ambitieux pour beaucoup d'entre vous, hein, parce que jouer sur les cordes au niveau de Venus Williams, ça n'est pas rien. Alors, est-ce qu'il y est arrivé? Eh bien, vous savez, oui, j'ai entendu le mot oui. Effectivement, elle est arrivée et elle a gagné à Dubaï en 2014. Donc, elle était capable de revenir au plus haut niveau malgré sa maladie de Sjögren. Alors, comment est-ce qu'elle y est arrivée? Eh bien, je ne connais pas les détails de son traitement, mais elle a certainement bénéficié des nouveaux traitements actuels qu'on peut proposer pour ce syndrome. Donc ce syndrome, SS pour syndrome de Sjögren, c'est peut-être un peu malheureux comme acronyme, mais ce syndrome de Sjögren est très fréquent. Hein. On considère maintenant que sa prévalence est de 0,6%, donc pratiquement 1% de la population, c'est-à-dire les 1000 patients à Genève, hein, si c'est 1%. Clairement, ça touche beaucoup plus les femmes que les hommes, et d'ailleurs, ça se reflète dans notre assemblée ici. Et puis, le syndrome de Sjögren peut être primaire ou secondaire. Hein, ça, vous êtes certainement au courant de ça. Il n'y a pas environ 50% des syndromes de Sjögren qui sont primaires. Le reste étant associé à d'autres maladies, on verra un peu avec lesquelles. Parce que bien sûr, l'association avec d'autres maladies influence beaucoup les traitements qu'on va utiliser chez tel ou tel patient. Alors la chose suivante à dire, c'est que ce syndrome de Sjögren est vraiment extrêmement variable. Variable pour plusieurs raisons. D'abord, en sévérité, vous avez donc sur la gauche les formes très très légères, où les douleurs sont très modérées, vous avez une fatigue généralement et qui est difficile à distinguer de la fibromyalgie. Parce que toutes les manifestations qui sont présentes à ce moment-là sont relativement peu évidentes. Si on fait des radiographies des mains, elles sont normales. Si on fait des ultrasons, ils seront souvent normaux aussi, bien qu'ils peuvent montrer quelque chose. Les tests sanguins sont parfois positifs pour des anticorps antinucléaires, vous avez probablement entendu parler de ça, mais pas toujours. Et en plus, le FAN, les anticorps antinucléaires, ne sont pas très spécifiques. Il y a beaucoup de médecins qui vous diront vous avez une petite élévation du FAN, mais ça n'est pas suffisant pour poser un diagnostic. Et pour toutes ces raisons, donc le diagnostic est souvent très retardé. Ça, c'est pour les formes légères. Et puis à l'autre extrémité, on a des formes qui peuvent être hyper sévères avec une sécheresse majeure, des gros problèmes de sécheresse buccale ou dentaire, des douleurs articulaires très fortes, une fatigue, des douleurs musculaires, une inflammation musculaire, des atteintes neurologiques périphériques, c'est-à-dire des neuropathies, des atteintes neurologiques centrales qui peuvent donc toucher le système nerveux central, des dysfonctions thyroïdes, un purpura, des vasculites, donc des atteintes de la peau, atteintes des vaisseaux qu'on voit au niveau de la peau, des atteintes rénales, c'est plus rare que dans d'autres maladies comme le lupus, mais ça se voit aussi, et puis complications qui peuvent être sérieuses, les lymphomes, et là, surtout pour les formes graves de syndrome de Sjögren, il faut faire un suivi, mais on a un certain nombre d'éléments qui permettent de déterminer si un lymphome risque plus ou moins plausiblement de se déclarer ou pas. Et puis il y a des marqueurs qui peuvent aussi nous dire, des marqueurs sanguins qui peuvent nous dire attention, là on risque de développer un lymphome. Autre chose qui est très importante, c'est bien sûr de faire des examens cliniques fréquents, une examination pour voir s'il y a des ganglions, pour voir s'il y a une grosse tuméfaction des parotides qui peuvent refléter, signifier le développement d'un lymphome. Et puis entre les deux, on a des formes moyennes, intermédiaires. On a vraiment toutes les possibilités le long de ce spectre entre les formes très légères et les formes très sévères. Alors bien sûr, là aussi, le traitement dépendra de la sévérité de la maladie. Et puis, il est aussi variable dans la mesure où il peut être isolé, donc sous la forme d'un syndrome de Sjögren primaire, ou associé à une autre maladie, syndrome de Sjögren secondaire, le plus souvent à une polyarthrite rhumatoïde, mais aussi à un lupus, à une polymyosite, une connectivite mixte, une sclérodermie ou une spondylarthrite. J'ai mis un point d'interrogation parce que la spondylarthrite est un peu en dehors de cette famille des connectivites qui sont le plus souvent associées au syndrome de Sjögren. Ces connectivites, c'est un groupe de maladies, ce groupe-là, qui sont caractérisés par des auto-anticorps. Alors, dans les spondylarthrites, on n'a pas, en tout cas, pas mis en évidence pour le moment d'auto-anticorps, mais il y a pas mal de descriptions de cas de patients qui ont des spondylarthrites avec un syndrome de Sjögren. La spondylarthrite, c'est une maladie qui touche le dos et le bassin, avec une raideur, généralement, et qui peut donc, selon certains rapports, être associée au syndrome de Sjögren. Alors comment on traite ce syndrome de Sjögren quand on est en présence d'un syndrome de Sjögren? La première chose, c'est de s'assurer du diagnostic. Pour plusieurs raisons, notamment parce que le syndrome sec n'est pas spécifique du syndrome de Sjögren. Il y a toute une série de conditions, de maladies, de traitements qui peuvent être associées au syndrome de Sjögren. Et c'est important de savoir d'abord parce qu'il ne faudrait pas poser un diagnostic de Sjögren pour rien. Et puis la deuxième chose, c'est que il peut y avoir, chez quelqu'un qui a un syndrome de Sjögren, l'adjonction d'autres facteurs qui feront que le syndrome sec sera plus fort, plus problématique, et qui devrait être traité d'une autre manière. Donc il faut toujours garder à l'esprit qu'il y a d'autres causes de sécheresse buccale ou oculaire. Alors, vous avez des maladies comme la sarcoïdose, l'amyloïdose, l'hémochromatose, la simple déshydratation, le diabète, le stress, l'anxiété, ça peut favoriser la sécheresse. Donc il y a beaucoup de patients fibromyalgiques qui se plaignent d'une sécheresse, qui sont peut-être fibromyalgiques, mais qui sont peut-être souffrants d'un syndrome de Sjögren qui n'a pas pu être bien démontré. Des médicaments, toute une série de médicaments les neuroleptiques, les antidépresseurs, les antiparkinsoniens, les antihypertenseurs, les antihistaminiques, les infections virales et en particulier le HIV, les oreillons bien sûr, le vieillissement, les traumatismes, des irradiations, les patients qui ont été irradiés, ou bien des problèmes génétiques congénitaux avec une agénésie, donc une non-croissance normale des glandes salivaires ou lacrymales. Donc vraiment toute une série de conditions qui peuvent produire une sécheresse et qu'il faut garder à l'esprit. Alors le traitement dépendra bien sûr du diagnostic, de sa sévérité, du type d'atteinte. Il dépendra aussi des attentes et des craintes du patient, parce qu'il y a des patients qui acceptent assez volontiers un certain degré de douleur, un certain degré de sécheresse, et qui ont peur des médicaments, et d'autres qui inversement veulent absolument être le mieux possible, comme par exemple pour jouer au tennis au niveau mondial, quitte à prendre des médicaments extrêmement puissants. Donc il faut tenir compte des attentes et des craintes éventuelles du patient. Il faut beaucoup discuter tout ça entre le patient et le médecin, de manière à bien définir les buts de chacun, les sentiments de chacun sur la question, de manière à s'accorder là-dessus. Et puis, bien sûr que le traitement dépendra aussi de la tolérance du patient aux médicaments. Pratiquement tous les médicaments peuvent avoir des effets secondaires, et il y a certains médicaments qu'on ne proposera pas chez quelqu'un parce que, par exemple, il a une maladie pulmonaire qui fera que certains médicaments seront contre-indiqués, une maladie du foie qui fera que d'autres maladies seront contre-indiquées. Donc tout ça, ça doit être pris en compte. Et puis en plus, il faut réaliser que le traitement dépendra beaucoup du médecin aussi. Des compétences du médecin d'abord, et je pense que le syndrome de Sjögren est une maladie assez complexe et qu'il faut qu'il soit suivi par quelqu'un qui connaisse bien la maladie. Et je pense qu'il faut en tout cas que ce soit un rhumatologue ou un immunologue ou un interniste. En France, les internistes sont souvent, connaissent très bien ce type de maladie. En Suisse, les internistes les connaissent moins bien. Et je pense qu'en Suisse, il vaut mieux que ce soit un rhumatologue ou un immunologue. Et puis, ça dépendra aussi du tempérament du médecin. Parce qu'il y a des médecins qui n'aiment pas trop donner des médicaments puissants en disant « le mieux, c'est de ne pas faire le mal ». Selon des vieux principes, des principes anciens, pas forcément des principes de vieux, mais des principes anciens, alors que d'autres sont beaucoup plus combatifs et sont prêts à donner des médicaments plus énergiques, voire même plus agressifs à leurs patients. Il y en a qui sont certainement trop agressifs. Il faut trouver le juste milieu, et de nouveau, ça dépendra du dialogue entre le médecin et le patient pour savoir, ça devrait dépendre du dialogue entre le patient et le médecin pour déterminer au mieux le meilleur traitement pour chacun. Alors, pour le traitement, on commence en général à parler du syndrome sec. Vous savez que le syndrome sec est dû à une inflammation des glandes lacrymales et des glandes salivaires qui provoque la sécheresse de la bouche et des yeux, mais en fait, toutes les glandes dites exocrines, c'est-à-dire qui produisent quelque chose vers l'extérieur du corps, peuvent être affectées, notamment les glandes exocrines au niveau de la peau, sécheresse de la peau, les organes génitaux, ça peut être un gros problème chez les femmes surtout, mais chez les hommes aussi, et puis au niveau de l'arbre bronchique, ça peut provoquer de la toux, ça peut provoquer un enrouement, ça peut provoquer parfois des problèmes d'élocution, des dysphonies, qui ont de la peine à parler ou à chanter, c'est assez fréquemment cité. Donc, un syndrome sec qui est vraiment, peut-être, tout à fait généralisé. Alors, comment est-ce qu'on traite ce syndrome sec? D'abord, pour la sécheresse buccale, qui est très, très fréquente. Le traitement de la sécheresse buccale, vous le savez probablement tous, est très important pour le confort, bien sûr, mais aussi pour la santé des dents. Parce que la santé des dents dépend de la salive. La salive joue un rôle très très important pour protéger les dents contre les microbes, elle contient des substances antibiotiques, et contre l'acidité, elle contient des tampons qui neutralisent l'acidité. Raison pour laquelle c'est important pour quelqu'un qui souffre d'un problème de sécheresse buccale de ne pas consommer trop d'aliments acides, des agrumes ou des choses comme ça, et s'il en prend, de relativement rapidement après les avoir consommés, se rincer la bouche, si possible avec quelque chose qui est capable de tamponner, de neutraliser ces acides. Donc il faut éliminer également les sucres, parce que les sucres jouent un grand rôle dans l'agression, bien sûr, des dents par les microbes qui provoquent les caries. Et tous ces sucres ne sont pas lavés chez quelqu'un qui a un syndrome sec par la salive. Ils ne sont pas éliminés normalement. Donc, c'est très important de prendre ça en compte. Alors, ça commence par une bonne hydratation qui ne doit pas être faite n'importe comment, cette bonne hydratation. Il faut boire régulièrement de l'eau ou des liquides, donc sans sucre, et si possible pas acide. Donc, il faut éviter toutes les boissons gazeuses. Les boissons gazeuses contiennent énormément d'acide. Hein, le Coca-Cola, le Schweppes, même le jus de pomme, le jus de pomme gazeux en bouteille contient beaucoup d'acide, plus du sucre en général. Donc tout ça, c'est très mauvais pour les dents. Les dents de tout le monde, mais spécialement pour les dents de quelqu'un qui souffre d'un syndrome de Sjögren. Alors, à éviter au maximum, et puis si on en consomme, essayez de se rincer la bouche de nouveau avec un ces rince-dents qu'on trouve dans les grandes surfaces ou en pharmacie. Faire bien attention à certaines eaux dites eaux, mais qui contiennent des arômes et qui contiennent généralement du sucre et généralement qui sont souvent acides aussi. Donc ces eaux, il y a des eaux de vitel, de vichy, etc. qui sont aromatisées, mais c'est pas bon non plus pour les dents.
Où se trouve le thé dans cette liste, le thé et le café?
Alors le thé et le café, s'il n'est pas sucré, en principe il est très bien. Sauf qu'il provoque facilement des dépôts sur les dents, donc une coloration des dents qui sera plus forte chez quelqu'un qui n'a pas de salive pour s'en protéger. Alors, pour ça, ce n'est pas idéal. Mais par contre, de faire comme les Italiens, c'est-à-dire boire un café et ensuite un bon verre d'eau, ça c'est parfait. Et pareil pour le thé. Exactement. Éviter les. Si on prend les stimulants salivaires, ce qui peut aider, il y a des stimulants salivaires comme le chewing-gum par exemple, simplement. Alors là, bien sûr, aussi éviter des stimulants salivaires qui contiennent du sucre ou des acides. Éviter aussi les médicaments qui peuvent aggraver la sécheresse. Alors ça, c'est pas toujours facile parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'une classe de médicaments qui favorisent la sécheresse, comme par exemple les antihypertenseurs, en tout cas certains antihypertenseurs ou certains antidépresseurs. Mais parmi les antidépresseurs ou parmi les antihypertenseurs, il y en a qui favorisent plus la sécheresse que l'autre. Donc, choisir plutôt ceux qui n'augmentent pas trop la sécheresse. Ne pas hésiter à installer de bons humidificateurs chez soi. Ça fait partie du traitement. De bons humidificateurs qui ne soient pas trop dangereux d'un point de vue microbe. Hein. Vous savez que les humidificateurs peuvent être de plusieurs qualités. Il y en a qui dégagent beaucoup de microbes dans l'atmosphère. Ce n'est pas idéal parce que les gens qui ont des problèmes de sécrétion bronchique ont aussi plus facilement des infections. Donc, essayez de trouver un bon humidificateur pour ça.
Excusez-moi.
Oui.
Est-ce que vous avez un bon bonbon pour stimuler la salive, qui n'est pas acide, sans sucre?
Oui, alors il y en a. Il faut trouver des bonbons sans sucre et sans acide. Il y en a un ami gros, par exemple.
La sauge, là, ces trucs comme ça.
Ceux que je connais sont à la menthe, mais ça doit se trouver. Tout ce qui est sans sucre et sans acide est bien.
Mais sans sucre, c'est acide, le sans sucre.
Ah non, pas forcément. Pas forcément. Ce qui est, non, si, bien sûr, s'il y a du citron dedans, du vrai citron, ce sera acide. Et quand on rajoute du sucre dans un jus de citron, c'est pas ça qui va faire baisser l'acide. Hein. Le mettre du sucre, ça n'enlèvera, ça ne diminuera, ça ne modifiera pas le pH, qui est la mesure de l'acidité. Ça diminuera la sensation d'acidité, mais pas l'acide. Donc il ne faut surtout pas rajouter du sucre dans une boisson acide en disant on protège les dents comme ça. Et pour les bonbons, vous avez les candidats, c'est les bonbons candidats de l'amigo qui sont relativement bien pour ça. Merci. Alors ensuite, les soins dentaires préventifs sont importants. Il faut trouver un dentiste qui soit attentif aux problèmes, qui connaisse les problèmes et qui vous propose des bons soins. Il faut souvent aller voir un hygiéniste, plus souvent que les gens de la population générale, probablement. Mais là, ça dépend aussi. Il y a des gens qui ont des dents superbes avec un talon de Sjögren et inversement. Donc, ça dépend de son état dentaire. Savoir que beaucoup de frais dentaires peuvent être remboursés par l'assurance maladie, ce qui n'est pas toujours annoncé par les dentistes, mais ce qui est souvent contesté par les assurances, et souvent bagarré un peu. Mais quand il y a l'évidence qu'une détérioration des dents est due, par exemple, à un syndrome de Sjögren qui n'a pas été diagnostiqué suffisamment tôt, alors on peut très bien faire valoir ça auprès de l'assurance avec une lettre du dentiste et une lettre du médecin. Et en général, l'assurance finit par entrer en matière. Utilisation de la soie dentaire après les repas, ça c'est le truc classique, hein, mais c'est important toujours. Du fluor régulièrement sous la forme de dentifrice ou de rince-bouche. Et puis, si possible, l'utilisation de dentifrice spécialement conçu pour les bouches sèches. On peut trouver ça en pharmacie. C'est des dentifrices qui tamponnent plus les acides, des dentifrices qui sont moins abrasifs, mais cela dit, les dentifrices modernes en général sont relativement bons, y compris ceux qu'on trouve dans les grandes surfaces, comme la Migros, pour reprendre cet exemple. Voilà. Et puis alors, à côté de ça, là c'est plus pour le confort, mais c'est une importance quand même. Il existe des salives artificielles, comme le gland de Zahn. Je crois que le gland de Zahn est la seule salive artificielle sur le marché en Suisse. Alors, ça a un double intérêt. Non. Oui.
Alors, il y a le multi-ara qui est bien, qui est même mieux, parce qu'il a un pH neutre, parce que le gland de Zahn a un pH acide.
Ok, voilà, impeccable, j'apprends quelque chose.
En fait, la fondation des dentistes, il y a un rapport sur le
multi-ara, sur les salives.
Ah oui, oui, mais il faut faire une demande de remboursement par l'assurance maladie. C'est remboursé selon la liste des moyens et à part le multi-oral.
Okay.
Voilà. Il y a Spray et Gel. Okay. Et on peut demander un remboursement.
Yeah.
Si jamais. Voilà.
Je regarde de moi, normalement, les deux histoires.
le gland de Zahn a un pH acide, c'est ça le problème.
Ah, ça, je ne savais pas. Et
la Fondation Suisse des Dentistes a testé plusieurs salives artificielles. Ouais. Et puis, sur leur site, il y a un rapport qui dit que la pH acide, elle, j'ai testé.
D'accord.
On est fait avec un papier pH et c'est acide.
C'est quand même incroyable qu'ils aient mis ça sur le marché. Alors, bravo. Merci. Donc, salive artificielle. Alors, c'est un double intérêt. D'abord, ça améliore le confort. Et puis, ça diminue la sensation de soif. Et la sensation de soif, due à la sécheresse de la bouche, est un piège. Parce que si on boit trop souvent de l'eau, on risque de laver le reste de salive qu'on a et d'aggraver le problème de détérioration dentaire ou de non-protection correcte des dents. Donc ça vaut la peine de prendre ce gland de Zahn pour ce double intérêt. Ensuite, il existe des stimulants systémiques, des anticholinergiques, des cholinergiques, pardon, comme la pilocarpine, vendue sous le nom de salagène. En fait, c'est celui qu'on prescrit en première intention parce qu'il est facilement remboursé, il est généralement efficace. Tous ces stimulants systémiques ont l'inconvénient d'avoir des effets systémiques. Donc, ils ne feront pas qu'augmenter la salivation, mais ils augmenteront la transpiration, ils augmenteront d'autres choses. Alors, parfois, ça peut être recherché chez les gens qui ont la peau trop sèche ou qui ont d'autres systèmes qui sont trop secs. Le salagène peut présenter un intérêt considérable, d'autant plus qu'il a une durée d'efficacité dans le sang qui n'est pas trop grande, donc le problème de transpiration ne se prolonge pas forcément très longtemps. Et il y a des patients qui sont contents de prendre ce salagène 3 ou 4 fois par jour. Pour ceux qui n'auraient pas d'efficacité avec le salagène ou qui ne le toléreraient pas, il existe deux autres molécules, la sévimeline et le sulfarlène, mais généralement on a des problèmes de remboursement avec ces molécules-là qui sont considérablement plus chères. Alors ensuite, une autre chose qui est importante, c'est la reconnaissance rapide et le traitement rapide des candidoses. L'absence de salive favorise aussi la croissance de candida, donc de champignons, qui se manifestent par des douleurs, des sensations de brûlure, une hypersensibilité ou des lésions blanchâtres dans la bouche, et qui doivent être traitées bien sûr avec des antibiotiques, des antifongiques adéquats. Et il faut les traiter parce qu'elles peuvent être extrêmement pénibles. Et souvent, elles ne sont pas bien différenciées par le patient de la simple sécheresse. Donc, en cas de doute, il faut vraiment montrer sa bouche à un médecin ou à un dentiste pour mettre en évidence une éventuelle candidose. Et puis ensuite, les immunosuppresseurs systémiques. Est-ce que pour le syndrome sec, on va proposer des immunosuppresseurs systémiques? Alors, rarement, hein. Rarement, uniquement pour un syndrome sec isolé, on proposera des immunosuppresseurs systémiques. Par contre, ce qui est clair, c'est que les gens qui ont un syndrome sec associé à des manifestations extraglandulaires, qui peuvent être plus ou moins sérieuses et qu'on traitera par des immunosuppresseurs systémiques, eh bien, iront mieux au niveau de leur syndrome sec. Et un très bon exemple, c'est dans le traitement de la polyarthrite. Vous savez, donc ce syndrome de Sjögren est très souvent associé à la polyarthrite rhumatoïde. Dans la polyarthrite rhumatoïde, on a toute une gamme de traitements qui sont très efficaces pour la polyarthrite, y compris par exemple les anti-TNF. Mais les anti-TNF, dont vous avez probablement, pour beaucoup d'entre vous, entendu parler, ces anti-TNF ne sont pas efficaces sur le syndrome sec, alors que d'autres médicaments, comme le Mactera par exemple, sont beaucoup plus efficaces. Les patients qui ont une polyarthrite d'un syndrome sec, le constate généralement assez rapidement, ils vont mieux avec le Mactera qu'avec les anti-TNF. Donc en général, uniquement pour le syndrome sec, on ne propose pas d'immunosuppresseur, sauf cas exceptionnel de sécheresse oculaire majeure qui peut provoquer qui peuvent poser un danger pour l'œil. Et donc, dans ces cas-là, parfois, on est amené à proposer des immunosuppresseurs. Cela dit, la plupart du temps, le syndrome sec est associé à d'autres manifestations qui, elles, justifieront un traitement systémique, et on va y revenir. Alors, comment traiter la sécheresse oculaire? Là, vous avez peut-être, pour certains d'entre vous, reconnu que le Schirmer, hein, on met un petit buvard dans l'œil, c'est pas très agréable. Normalement, on doit le faire avec un anesthésique. Pour deux raisons, d'abord c'est moins inconfortable, et deuxièmement, la mesure est plus précise parce que la gêne provoquée par le buvard fausse les données, et il faudrait mettre un anesthésique avant de mettre le buvard. Donc on détermine comme ça, avec le test de Schirmer, le degré de sécheresse, qui est une aide pour le diagnostic, et puis éventuellement une aide ensuite pour le suivi, pour voir si telle ou telle intervention a amélioré la situation. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer pour le traitement de la sécheresse oculaire? D'abord, bien sûr, les larmes artificielles. Les larmes artificielles sont très utiles, ça je crois que tout le monde l'a constaté. Il existe beaucoup de larmes artificielles et de gels artificiels sur le marché. Souvent, les gens aiment bien en prendre deux différents, un pour la nuit et un pour la journée. Et la tolérance ou le confort avec ces gels artificiels varie beaucoup d'un patient à l'autre. Donc le mieux, c'est d'essayer différents gels ou différents colliers et de prendre celui qui convient mieux. Une chose qui est relativement importante, c'est les monodoses. On a la chance en Suisse de pouvoir utiliser assez facilement les monodoses plutôt que des flacons, des petites bouteilles, desquels on sort les larmes les unes après les autres, les gouttes les unes après les autres. Pourquoi? Parce que les flacons contiennent des agents conservateurs. Ces agents conservateurs qui empêchent les microbes de pulluler dans le flacon qui était ouvert et qui reste ouvert une seconde ou deux. Et ces agents conservateurs sont pas excellents pour la santé de l'œil si on les utilise longtemps et chroniquement, et pourraient favoriser, on pense qu'ils favorisent la cataracte. Déjà, l'inflammation chronique favorise la cataracte et les agents conservateurs également. Donc, pour cette raison, en général, on propose des monodoses. Des compresses humides peuvent jouer un rôle important et utile, notamment quand il y a de l'inflammation et les blepharites, donc les inflammations des paupières, peuvent accentuer le problème de sécheresse. Vous savez que les yeux sont humidifiés par plusieurs choses différentes, par des substances aqueuses, que sont les larmes, et puis des substances plus graisseuses, visqueuses, qui sont produites par d'autres glandes, qui peuvent s'enflammer, ensuite se boucher et être moins efficaces. Et quand elles se bouchent comme ça, généralement d'abord qui est rouge, c'est enflammé, et des compresses humides pour dégorger ces glandes peuvent être utiles. Mais là, les ophtalmologues en général donneront des bons conseils. Si vous avez l'œil rouge, la paupière rouge, il faut consulter un ophtalmologue qui connaît ce problème, et je peux vous donner quelques noms si vous voulez. Il y a notamment le docteur Bosseau et le docteur Farcourt, pour n'en citer que deux, c'est ceux avec qui je travaille le plus, connaissent bien le syndrome sec, qui peuvent donner de bons conseils. Ensuite, dans certains cas, on peut donner des émulsions à la cyclosporine ou au tacrolimus, donc des pommades ou des gouttes avec ces substances, cyclosporine et tacrolimus, qui sont des immunosuppresseurs, qui peuvent éventuellement diminuer l'inflammation locale et d'autre part diminuer l'inflammation dans les glandes et éventuellement favoriser comme par là la sécrétion. Alors là aussi il y a des problèmes de tolérance, mais ça vaut la peine de discuter ça avec un bon ophtalmologue qui connaisse bien la question. Est-ce qu'il faut utiliser des gouttes ou des pommades de corticostéroïdes? Alors si on en utilise, il faut vraiment le faire très ponctuellement, pas trop longtemps, parce que ces corticostéroïdes, vous le savez probablement, ont beaucoup d'effets secondaires, notamment sur la surface de l'œil, et puis ça aussi, ça favorise la cataracte, donc il ne faut pas en abuser. Là aussi, il vaut mieux utiliser des monodoses que des flacons, mais surtout pas les prendre trop longtemps, même en cas de blepharite. Il vaut mieux essayer de trouver d'autres solutions que des traitements prolongés de corticostéroïdes. Ensuite, on peut proposer des interventions chirurgicales. Là, les ophtalmologues qui connaissent bien ça savent quand c'est une bonne indication ou pas. On bouche les canaux d'évacuation des larmes, ce qui permet aux peu de larmes qui sont sécrétées de rester sur l'œil et d'exercer un effet plus prolongé. Et puis finalement, pour les cas très sévères, on peut proposer du sérum autologue. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous a déjà dû ou utiliser du sérum autologue. Donc, probablement, d'abord, vous avez un bon ophtalmologue, et deuxièmement, vous avez probablement effectivement un problème assez sévère au niveau de l'œil. Mais le sérum autologue, donc, qu'on fabrique à partir du sang du patient lui-même, et on sépare le sérum des globules, et ensuite on conditionne de manière à ce qu'on puisse l'utiliser. C'est assez cher, mais dans certains cas, c'est beaucoup plus efficace que les larmes artificielles. Ça contient des substances antiseptiques, c'est un bon lubrifiant, et il y a des patients qui sont fortement soulagés par ça. Je ne sais pas si c'est votre expérience aussi. Non, ça n'a pas marché. Bon.
Moi, j'ai une situation des moyens mécaniques, parce que moi, par exemple, je
porte des lentilles sclérales. Oui, alors ça, c'est quelque chose d'autre qui a été proposé. Ouais. J'ai pas eu de très très bons échos, mais vous êtes content? Ah ouais, bon. Donc des grosses lentilles qui courent le plus gros œil.
Je les remplis, ouais. Je les colle dans l'œil et vraiment je les humidifie toute la journée, il est protégé des poussières, du maquillage, de tout ce qui peut toucher l'œil.
Ouais, tout à fait. Alors ça peut être une très bonne, effectivement.
J'ai trouvé que c'était bon. Alors tout le problème, c'est le remboursement.
Ouais.
Alors
c'est un des problèmes, parce qu'il y a le remboursement, puis il y en a qui les supportent mal. Alors,
on peut trouver le moyen, il y a quelqu'un qui fait un GF qui fait ça, qui est très méticuleux, alors, il va passer 6 mois à vous tester toutes les lentilles sur mesure.
Alors,
vous voyez qu'à partir du... Ça doit être ça, Michler.
Michler?
Oui, il est à la...
Je ne connais pas, mais je...
C'est ça qui fait ça normalement.
D'accord. S-C-H-L-E-R.
M-I-S-C-H-L-E-R.
D'accord. Ok. Alors voilà, donc, oui.
Juste par rapport aux larmes artificielles, est-ce qu'il y a des sortes de larmes qui agissent plus longtemps que d'autres?
Oui, alors il y en a qui sont.
Peine à trouver, Il y a des fruits qui doivent être tout le temps.
Ouais. Il y a le lacrymisque, par exemple, qui est assez efficace. Mais il y en a clairement qui sont plus visqueuses que d'autres. Alors là, je pense que le mieux, c'est d'en parler à votre ophtalmologue.
Moi, lui m'a donné plein d'échantillons, il m'a dit de tester.
Oui, ben, c'est mon fleur général.
C'est difficile des voix de savoir.
J'ai testé beaucoup de larmes, mais les systèmes, est-ce qu'ils vont tester à l'avenir ? Elles sont miraculeuses.
Ok.
En monodose, vraiment, j'ai résolu mon problème avec ça.
Ok, ah ouais. Donc effectivement,
c'est pas remboursé, hein, voilà.
Ouais, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas remboursés, c'est ça.
Bon, cela dit, si c'est... Ça vaut la peine de demander à votre médecin, votre ophtalmologue, de faire une demande spéciale en mettant en avant le fait que vous n'avez pas eu de bons résultats avec celles qui sont remboursées, que la cornée est à risque, que vous risquez des lésions graves avec une greffe de la cornée. Enfin, bref, il y a moyen de faire peu aux assurances et de les pousser à être plus compréhensibles. Alors, pour la sécheresse oculaire, bien sûr, les mêmes traitements systémiques que pour la sécheresse buccale, silocarpine, sémiméline et sulfarlène, et puis, dans certains cas très graves, des immunosuppresseurs, et en particulier dans ce fameux MabThera qu'on peut discuter pour ça uniquement. Alors maintenant, les manifestations extra-articulaires. Les manifestations extra-articulaires sont multiples, hein. Et donc... Extra-glandulaire. Comme rhumatologue, je dis souvent extra-articulaire, mais je vais dire glandulaire. Extra-glandulaire, exactement. Donc, les manifestations extra-glandulaires qui comprennent justement les manifestations articulaires, les manifestations cutanées, les manifestations éventuellement rénales, pulmonaires, enfin, il y a toutes sortes de manifestations qui peuvent survenir. Alors, pour ça, on a toute une série de traitements systémiques, évidemment. Qu'est-ce qu'on a ? On a les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Je vais revenir ensuite en détail sur ces différentes classes de médicaments. On a grosso modo les anti-inflammatoires non stéroïdiens, qui sont surtout utiles pour les articulations. On a les corticostéroïdes, qui sont utiles pour à peu près tout, mais qui sont difficiles à utiliser pendant longtemps à des doses suffisantes, on le verra. On a les immunosuppresseurs classiques, comme le MabThera, l'Araval, l'Imurec, etc. Et puis on a les immunosuppresseurs biologiques, la nouvelle classe de ces médicaments. Vous êtes familier avec le terme immunosuppresseur biologique par rapport à classique. Donc les immunosuppresseurs classiques sont des molécules chimiques qu'on utilise depuis longtemps, comme le méthotrexate, l'Araval, l'Imurec, le Celcept plus récemment, qui ont des effets qui sont peu ciblés, des effets en fait, qui sont souvent multiples d'ailleurs, mais qui ont pas mal d'effets secondaires dû au fait qu'ils sont peu ciblés. Et puis, plus récemment, on a mis au point des immunosuppresseurs biologiques comme le MabThera ou comme les anti-TNF ou comme l'Orencia, pour ceux peut-être qui l'auront expérimenté, qui sont en fait des protéines qui sont souvent des anticorps dirigés contre une molécule inflammatoire de l'organisme, donc qui sont produits par génie génétique, c'est biologique, qui sont des protéines. Étant des protéines, on ne peut pas les prendre par la bouche parce qu'elles seraient digérées et inactivées, donc on doit les injecter. Elles coûtent extrêmement cher, c'est des traitements qui valent une vingtaine de milliers de francs par année en général, mais qui sont remboursés par les assurances. Là, il faut encore aussi se bagarrer un peu parce que l'indication pour le syndrome de Sjögren isolé n'existe pas, mais il y a moyen de contourner ça. Et puis, on a parfois des résultats excellents avec ces immunosuppresseurs biologiques. Ce qu'il faut savoir...
Le nom juste de ces médicaments.
MabThera. Mais j'ai laissé sur le PC ma présentation pour un disposer.
Je l'enverrai à tout le monde. Je la mettrai sur le site internet. Je l'enverrai à tout le monde.
C'est un biologique. Et ces immunosuppresseurs biologiques, alors, ont des avantages, ont aussi un certain nombre d'inconvénients, mais on les utilise souvent en association avec les immunosuppresseurs classiques.
Et
Mais je vais y revenir, oui.
Tu sais, avec. Parce que. Poser la question. Si tu veux la poser, tu la poses. On est dans un cas, là, pour madame, qui, où le médecin traitant dit oui, il faudrait un biologique, et le rhumatologue
dit non.
Intéressant.
Alors ça,
comment vous approchez ça?
Ça, c'est fréquent. La médecine n'est pas du tout une science exacte. Hein, c'est pour savoir. Et puis, comme je vous ai dit, il y a des questions de tempérament, des questions de compétence, des questions d'habitude, des questions de sensibilité. Donc, toutes sortes de choses qui font que tel ou tel médecin sera plus ou moins enthousiaste pour les traitements énergiques. Les traitements biologiques sont considérés comme des traitements assez énergiques, voire agressifs par beaucoup. Alors, on considère maintenant que le mot agressif n'est pas le bon mot, parce que quand un patient a besoin d'un traitement très énergique, c'est bien meilleur pour sa santé, pour toutes sortes de raisons, de le donner que de ne pas le donner. Et par exemple, ça a été bien montré que ces médicaments biologiques qui peuvent entraîner des infections, parce que ce sont tous des immunosuppresseurs qui diminuent les défenses immunitaires, qui peuvent augmenter l'infection. Pour certains d'entre eux, ils peuvent augmenter le risque de certaines tumeurs, pas de toutes, mais de certaines, c'est à prendre en compte. En général, on peut surveiller des choses. Donc, c'est des médicaments qui font peur. Mais, c'était très bien montré sur des études de grandes populations que quand on donne ce type de médicaments à des gens qui en ont besoin, non seulement l'espérance de vie de ces gens qui en ont besoin ne diminue pas, mais au contraire, elle augmente. Parce que les gens qui ont des maladies sévères et qui ont besoin de ces médicaments, je parle là de maladies très sévères, mais quand on a une maladie très sévère, il y a un certain nombre de facteurs qui font que l'espérance de vie diminue, avec le risque de lymphome, avec le risque d'infection due au sjögren, avec le risque de maladies cardiovasculaires due au sjögren. Et là, encore une fois, je ne parle que des maladies sévères. Et dans ces cas-là, c'était bien montré que les médicaments énergiques augmentent l'espérance de vie et la ramènent à l'espérance de vie de la population normale. Et quand je dis espérance de vie diminuée pour les maladies sévères, c'est très peu de choses. Ce n'est pas des gens qui vont mourir à 45 ans, vous le savez bien. Mais par contre, c'est des gens qui mourront plus facilement à 75 ans qu'à 85 ans ou à 95 ans. Et donc, il y a une petite diminution de l'espérance de vie. Cette petite diminution, elle se mesure statistiquement sur des grandes populations. Si on prenait une salle comme la vôtre, on n'arriverait probablement pas à mettre en évidence une diminution de l'espérance de vie dans le syndrome de Sjögren ou dans la polyarthrite rhumatoïde. Sur des grandes populations, ça peut se mesurer, c'est faible. Et sur ces mêmes grandes populations, quand on utilise ces médicaments, eh bien, on réaugmente, on ramène, on normalise l'espérance de vie. Donc, ce qui montre que ces traitements dits agressifs ne sont pas si agressifs que ça, au contraire, ils sont. Ils protègent les gens.
Ah, comment on fait pour départager les personnes?
Alors, si quelqu'un, justement, a
C'est le rhumatologue qui doit prescrire pour le soin qu'on veut.
Alors, non, en Suisse, ce n'est pas le cas. En Suisse, un généraliste, c'est d'ailleurs pas forcément une bonne chose, mais en Suisse, en principe, un interniste, un généraliste a le droit de prescrire n'importe quel médicament. Il y a des généralistes qui le font. Cela dit, s'il y a un désaccord entre l'interniste et le généraliste, et une situation qui n'est pas satisfaisante, avec des signes objectifs évidents d'une maladie qui reste inflammatoire, qui reste active, et que le rhumatologue dit non, il faut lui demander pourquoi. Et puis si ces arguments ne sont pas convaincants, je pense que ça vaut la peine de prendre un deuxième avis auprès d'un autre rhumatologue. Oui.
Je m'en sors bien, c'est très sévère.
Oui.
Mais je n'ai rien contre le rhumatologue. Ouais. D'ailleurs, j'ai été toute ma vie oubliée. Je suis encore traitée par un rhumatologue. Mais la question, c'est pourquoi la plupart des gens sont traités par un rhumatologue, pas pour un immunologiste, ou les deux?
Oui. Alors, c'est une bonne question. Je dirais que ça dépend des pays et ça dépend des périodes.
En Suisse.
Ouais. Alors, en Suisse, La plupart des rhumatologues maintenant connaissent bien le syndrome de Sjögren. Mais c'est pas le cas de tous, vous avez parfaitement raison. Et surtout les rhumatologues, je dirais, plus anciens. Parce que maintenant, la rhumatologie suisse est très fortement influencée par la rhumatologie américaine. La plupart des articles qu'on lit viennent des États-Unis et de France d'ailleurs. Il y a aussi très bon centre, très bon rhumatologue en France, hein, parmi les meilleurs du monde. Je dis ça parce que vous avez l'air d'avoir un accent français.
Ah, c'est pas ça. Je me demandais pourquoi vous me regardiez.
Vous avez l'air intéressé. Je me trompe ou pas? Ok. Et donc, la rhumatologie moderne, en fait, la rhumatologie américaine, ce sont les rhumatologues américains qui ont vraiment bien travaillé sur le syndrome de Sjögren, décrit les bons premiers traitements efficaces, etc. Et la rhumatologie suisse s'en inspire, et maintenant les centres de rhumatologie en Suisse, pour la plupart d'entre eux, sont très, je dirais, proches de la rhumatologie américaine, sur le plan des idées, sur le plan de l'enseignement, etc. Donc la plupart des rhumatologues maintenant connaissent bien.
Dites-moi
si
vous êtes d'accord,
le
syndrome de Sjögren,
c'est bien une maladie
auto-immune. Auto-immune, ça serait plus un immunologiste. Parce qu'il n'y a pas que le symptôme de rhumatologie chez une personne qui a.
Alors, une chose est sûre, c'est que si vous aviez ici même un immunologue en face de vous, il vous dirait: madame, vous avez parfaitement raison. Et puis, un certain nombre de rhumatologues vous diront qu'il y a des rhumatologues qui connaissent ça aussi bien, voire mieux que certains immunologues, et inversement. Alors, ce qu'il faut, c'est trouver un immunologue ou un rhumatologue qui connaisse bien la maladie. Le rhumatologue a un certain nombre d'avantages potentiels, c'est qu'il examinera mieux les articulations qu'un immunologue, il saura mieux faire la différence entre une douleur qui est due au syndrome de Sjögren, une douleur qui est éventuellement due à autre chose, une tendinite, une arthrose, de ce quoi, ou une infection. Donc il a un certain nombre d'avantages spécifiques. L'immunologue, c'est vrai, connaîtra mieux la maladie que certains, en tout cas que certains rhumatologues. Encore une fois, le mieux, c'est de trouver quelqu'un qui connaisse bien la maladie, et pourquoi pas trouver deux personnes qui collaborent entre elles. Et pour les cas difficiles, à l'hôpital, on collabore entre immunologues et rhumatologues. Souvent.
Hein. Merci.
Alors, est-ce que les antalgiques jouent un rôle dans le traitement du syndrome de Sjögren? Les antalgiques, en principe, ils ne devraient pas jouer un très grand rôle. Pourquoi? Parce que le syndrome de Sjögren est une maladie inflammatoire. Et en principe, il faut traiter l'inflammation avec des molécules anti-inflammatoires, que ce soit des anti-inflammatoires non stéroïdiens simples, comme le brufène, le voltaren, le naproxène, etc. Ou des corticostéroïdes, enfin bref, ces médicaments-là, qui agissent finalement sur l'inflammation, qu'avec des antalgiques. Mais dans certains cas, et notamment ponctuellement, on peut être amené à utiliser des antalgiques, parfois même des antalgiques puissants comme du codafazan ou du tramadol, donc qui contiennent des dérivés de la morphine, pour des patients qui ont très mal. Mais ça, on ne devrait pas trop les utiliser. On utilise parfois un antalgique un peu spécial, le Lyrica, qui est un antalgique qu'on utilise beaucoup pour les douleurs neuropathiques, qu'on utilise dans les douleurs, par exemple, du diabète. Et comme le Sjögren peut être associé à des atteintes neuropathiques, le Lyrica peut aider certains patients considérablement. Donc ça s'utilise aussi. Et puis, est-ce qu'il faut utiliser des antidépresseurs? Alors, les antidépresseurs, à première vue, on va dire non. Mais il y a quand même un certain nombre de situations dans lesquelles les antidépresseurs peuvent être utiles chez les patients qui ont un certain nombre de Sjögren. Pourquoi? Pour trois raisons en tout cas. D'abord parce que le fait d'avoir mal de manière chronique pendant longtemps, ça peut user le moral et entraîner une dépression. Les dépressions secondaires dans un certain nombre de Sjögren sont très fréquentes. Et si on fait des analyses statistiques, on verra que le pourcentage de gens déprimés dans une population de gens qui souffrent d'un syndrome de Sjögren est beaucoup plus élevé que dans la population générale. Et pourtant, dans la population générale, c'est très élevé. Hein, vous savez, le nombre de gens qui souffrent d'une dépression, du prêt des antidépresseurs dans la population générale. Deuxièmement, les douleurs chroniques du syndrome de Sjögren, quand elles ne sont pas bien traitées autrement, entraînent souvent des troubles du sommeil. Les gens ont mal la nuit. Et ces troubles du sommeil, eh bien, ils vont augmenter les douleurs. C'est bien connu que les troubles du sommeil augmentent la douleur. Ça fait longtemps qu'on a réalisé qu'il y avait une association entre douleur et troubles du sommeil. Et puis, on a fait des expériences, pas nous à Genève, mais ça a été fait dans d'autres centres, des expériences dans lesquelles on réveillait des volontaires au milieu de la nuit régulièrement. Et ces personnes développaient très souvent un syndrome douloureux qui ressemble d'ailleurs à la fibromyalgie, ou aux douleurs dont on peut souffrir dans le syndrome de Sjögren. Et puis, troisièmement, les antidépresseurs ont un effet analgésique. Ça, ça a été bien démontré. Et c'est pour ça en particulier qu'on les utilise dans la fibromyalgie. Des petites doses, même des petites doses d'antidépresseurs, diminuent leur sentiment des douleurs, le ressenti des douleurs, et permettent à certains patients d'aller mieux. Ce n'est pas le cas tous, bien sûr, mais de temps en temps, c'est le cas. Et donc, dans certaines situations, ça vaut la peine, en tout cas, de discuter une telle molécule qui peut beaucoup aider certains patients. Il ne faut pas oublier que la dépression peut être très sévère dans le syndrome de Sjögren, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que ces douleurs chroniques, ça use. Ensuite, ça diminue le sommeil, donc les gens dorment mal. Ils dorment mal, ils sont plus stressés, anxieux et déprimés. Et puis, en plus, leur affection est souvent mal reconnue par leur entourage, que ce soit la famille, que ce soit les amis, que ce soit l'entourage professionnel. C'est des gens qui n'ont souvent plus l'énergie de sortir le soir. Leur mari ou leur femme leur demande pourquoi. Essayent de les pousser. C'est la même chose au bureau. Les collègues ne comprennent pas pourquoi ils en font apparemment un peu moins. Les chefs, c'est souvent un gros problème. Donc tout ça s'accumule et fait que les problèmes de dépression sont vraiment très fréquents et plus fréquents qu'on ne croit. Et puis la dépression, bien sûr, ça peut être très grave et dans certains cas, ça peut mener à des issues fatales. Donc il ne faut pas hésiter à en parler quand on sent qu'on perd un peu de pied et éventuellement prendre des antidépresseurs, que ce soit ponctuellement ou plusieurs de longues périodes. Il y en a qui en prennent avec beaucoup de bénéfices sur de très longues périodes et qui vont mieux grâce à ça. Donc voilà un peu tout l'arsenal de classes de médicaments qu'on peut utiliser dans le syndrome de Sjögren. Alors j'ai juste aller plus en détail sur quelques médicaments. D'abord, les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Oui.
Juste par rapport aux antidépresseurs, vous dites lesquels, parce qu'on sait qu'ils ont quand même des effets sur la sécheresse.
Oui, alors ça c'est un problème. Mm-hmm. C'est effectivement un problème. Les antidépresseurs classiques, comme par exemple l'antitricyclique, le surmontil ou autre, ont plus d'effets que les nouveaux antidépresseurs. Donc on utilise plutôt les nouveaux antidépresseurs, comme par exemple la paroxétine, ou comme par exemple le Cymbalta, ou comme par exemple l'Effexor. Ces médicaments ont généralement peu d'effet sur la sécheresse, et puis certains d'entre eux ont plus d'effet sur la douleur. L'Effexor et le Cymbalta ont plus d'effet sur la douleur. Certains autres ont plus d'effet sur l'anxiété, si elle est présente, ou le sommeil, le trouble du sommeil, comme la paroxétine, ou le Réméron. Le Réméron a l'inconvénient de faire prendre du poids, mais pour certains, ce n'est pas du tout un problème. Donc, en fait, ces antidépresseurs, il faut en discuter avec quelqu'un qui les connaisse bien. Et il faut bien choisir. Bien choisir. Souvent, il faut tâtonner un peu, comme d'ailleurs pour tous les médicaments du chemin, il faut souvent tâtonner pour trouver la meilleure molécule. Oui.
Enfin, médicaments, je crois que vous avez pensé à du
Plaquenil. Ah, c'est une bonne question. J'attendais un peu cette question. Plaquenil, on l'a donné pendant des années, probablement pour rien. Exactement. Pardon.
Encore. Je comprends. Je suis pas d'accord. Moi, je l'ai. C'est juste fabuleux.
Vous le trouvez fabuleux?
Oui. Ouais. Enfin. ça fait l'effet, ça prend beaucoup de temps,
ouais.
que ça fasse l'effet.
Ouais.
J'ai suivi aussi une biothérapie avec Marc Terra récemment.
Ouais.
Mais mon médecin, immunologue, m'a demandé de continuer le,
ouais.
la clinique. Et les deux,
ça, ça vient.
Fantastique.
Bon, ça a l'air, parce que vous avez l'air très souriante en disant ça. Ok. Alors, c'est probable. Le plaquenil a été essayé dans de nombreuses maladies. Dans le lupus, on dit encore qu'il ne faut surtout pas l'arrêter. Dans le plaquenil, il a récemment fait l'objet d'études sur des grands nombres de patients. Et les résultats étaient négatifs. On n'a pas réussi à démontrer son efficacité. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas efficace. Ce qui ne veut pas le dire du tout. Il est probablement peu efficace. Et surtout, il est peu efficace au niveau d'une population statistiquement. Mais les gens sont tous différents. Possiblement que vous avez une forme qui se rapproche un peu d'un lupus, ou bref, que vous répondez mieux au plaquenil, c'est tout à fait possible, c'est même probable, c'est certainement pas pour rien qu'on l'a utilisé au début, mais c'est une molécule qui peut avoir des effets secondaires au niveau de l'œil, justement, avec des dépôts au fond de l'œil, il faut faire des contrôles réguliers, qui peuvent être pénibles. Mais pour cette raison, on l'utilise plus tellement en première intention, et contrairement au lupus, où vraiment le dogme c'est il faut continuer le plaquenil, on n'arrête pas le plaquenil, dans le chirurgien on l'utilise maintenant moins. Mais pourquoi
bon, disons, mon médecin aussi pense que je vais arrêter, je vais continuer. Ouais. La biothérapie qui existe fabuleuse,
ouais.
j'ose espérer que petit à petit je vais
arrêter. Ouais. Est-ce qu'on a d'autres choses alors à la place du plaquenil?
Alors oui, on remplace généralement le plaquenil par une des classes de médicaments dont je vous ai parlé, c'est-à-dire le méthotrexate, l'imurec, le Celcept ou une biothérapie comme le Macrimachter. Alors pour revenir à ces anti-inflammatoires, ils agissent en inhibant la synthèse des prostaglandines, peut-être que vous l'avez vu ou entendu, mais par cet effet, ils ont quand même pas mal d'effets secondaires, notamment en provoquant des ulcères gastriques, l'insuffisance rénale, des saignements, une augmentation du risque cardiovasculaire. C'était assez bien montré que tous ces anti-inflammatoires, sauf le naproxène, augmentent si on les prend à relativement haute dose, à bonne dose, je dirais, à dose efficace, pendant très longtemps, ils augmentent un peu, pas beaucoup, mais un peu, le risque cardiovasculaire. Donc on a tendance maintenant à les utiliser de moins en moins, d'autant plus qu'on a maintenant d'autres médicaments qui sont efficaces. Donc on les utilise souvent ponctuellement, si par exemple il y a une tendinite, si par exemple on veut aller à un cocktail, si par exemple on veut faire une course en montagne, un truc comme ça, et qu'on n'a pas envie d'avoir mal, c'est très bien, c'est parfait de prendre des anti-inflammatoires. Il ne faut pas hésiter à protéger l'estomac pour les gens qui ont un estomac sensible, mais on hésite à les utiliser sur de longues périodes. Il existe des COX-2 sélectifs, comme le Celebrex ou l'Arcoxia. COX-2 sélectifs, ça veut dire qu'ils n'ont pas d'effet secondaire sur l'estomac. Ils ne favorisent pas ou très peu le risque d'ulcère gastrique. Donc ce Celebrex et l'Arcoxia ont cet avantage-là, mais par contre, apparemment, ils ont plus d'effets secondaires cardiovasculaires sur le long terme. Donc, encore une fois, Arcoxia Celebrex, on peut très bien les utiliser ponctuellement, ça reste de très très bons médicaments, mais essayez d'éviter le long terme, donc essayez de trouver autre chose qui marche mieux. Alors, on donne souvent, pour protéger les effets secondaires des anti-inflammatoires non stéroïdiens comme le Voltaren ou le Bofen, on donne souvent des IPP, IPP inhibiteur de la pompe à protons, comme par exemple l'omeprazole, le pantoprazole, le Nexium, etc. Alors ces IPP sont très efficaces. Ça, c'est le bon côté de la médaille. Mais par contre, on sait maintenant qu'il y a un revers de la médaille qui est un gros problème. Et ce revers de la médaille, en fait, c'est qu'ils sont bourrés d'effets secondaires, ces IPP. On croit, on a cru pendant longtemps que c'était un simple protecteur gastrique, un simple pansement gastrique qui n'avait pas d'effet secondaire. Mais il modifie la chimie de l'estomac et il diminue l'absorption du calcium, ce qui favorise l'ostéoporose. Ça, ce n'est pas forcément un immense problème parce qu'on peut donner du calcium. Mais il diminue l'absorption du magnésium, ce qui favorise d'autres problèmes, notamment des problèmes cardiaques. Il diminue l'absorption de la vitamine B12, ça c'est très net, mais d'autres vitamines. Ils augmentent le risque de pneumonie parce qu'ils suppriment la production d'acide dans l'estomac et pour cette raison, le risque d'injection de germes et donc de pneumonie est augmenté. Donc bref, ils ont un certain nombre d'effets secondaires. Raison pour laquelle maintenant, on essaye de plus en plus d'éviter la prescription de ces IPP sur le long terme. Et donc, j'en parle là parce qu'on associe très souvent et trop systématiquement par réflexe ces IPP aux anti-inflammatoires. La plupart du temps, ce n'est pas nécessaire. Et maintenant, il y a une prise de conscience sur le fait que les IPP, d'une manière générale, sont beaucoup trop prescrits, qu'il faudrait beaucoup diminuer cette prescription.
Les diminutions d'absorption de calcium et magnésium, ça s'arrête quand on arrête les IPP?
Alors ça s'arrête quand on arrête l'IPP, absolument. Et d'ailleurs, une bonne façon de faire, c'est de prendre un IPP 3 jours par semaine, par exemple. Parce que là, vous absorbez au moins un jour sur deux. Le problème des IPP, c'est qu'ils induisent une accoutumance. Et quand on essaye d'arrêter un IPP, eh bien, on a mal au ventre. Et il faut passer par-dessus, il faut l'arrêter d'abord progressivement et se dire que c'est normal d'avoir un peu mal au ventre pendant quelques temps parce qu'il y a des espèces de rebonds avec l'augmentation de la sécrétion acide pendant un certain temps. Donc c'est pas si facile d'arrêter les IPP, mais c'est quand même préférable. Cela dit, il y a des gens qui les prennent toute leur vie pour certaines maladies gastriques et puis on peut faire des contrôles réguliers et puis... Généralement, il n'y a pas de problème majeur, mais pas trop en abuser. Oui.
Est-ce que prendre des probiotiques après avoir pris les IPP pendant quelque temps, ça peut aider en fait les douleurs pendant le temps?
Alors, probablement, que ce soit des probiotiques éventuellement ou d'autres médicaments comme les antiques, ça peut aider à arrêter un IPP. Ou de l'ulcoban, des pansements gastriques. Ça, c'est une bonne façon de faire. Les probiotiques agissent surtout sur la flore intestinale, donc plus bas que sur l'estomac.
Merci.
Alors les corticostéroïdes. Les corticostéroïdes ont été co-développés par Philippe Hensch au début du siècle. Et c'était un véritable miracle, plutôt on a cru au miracle. Parce que les gens qui ont pris des corticostéroïdes se sont cru guéris. Les gens qui souffraient depuis des années d'une polyarthrite rhumatoïde, d'un lupus ou d'une autre maladie, ont pris ces corticostéroïdes. Et en 3 jours, ils se sentaient guéris. À tel point que Raoul Dufil, le peintre, qui a entendu parler de ça, a fait ni une ni deux. Il a traversé l'Atlantique pour aller rencontrer Philippe Hensch. Philippe Hensch lui a donné des corticostéroïdes. Raoul Dufil était miraculé pendant quelques semaines, mais quelques semaines après, il est mort. Pourquoi? Parce qu'il a pris des doses excessives de ces corticostéroïdes qui ont énormément, malheureusement, de pénurie. Donc, les corticostéroïdes sont des médicaments magiques pour le court terme, mais on ne peut pas utiliser sur le long terme parce que les doses qu'il faudrait utiliser sont excessives, elles ne sont pas tolérées, entraînent beaucoup trop d'effets secondaires. Les effets secondaires sont multiples, il y a le diabète, il y a l'atrophie cutanée, la fragilité capillaire, l'ostéoporose, la prise de poids, les œdèmes, l'insuffisance corticosurrénalienne, raison pour laquelle il ne faut pas arrêter tout d'un coup les corticostéroïdes. Si on en a pris pendant longtemps, si on en prend pendant une semaine ou deux, ce n'est pas un problème. On peut les arrêter d'un coup, même pendant un mois, on peut les arrêter d'un coup. Mais si on en prend trop longtemps, il ne faut pas les arrêter d'un coup. Et puis, ça favorise les ulcères, et donc Dufy est mort d'un ulcère. Alors, ça ne l'a pas empêché de faire des belles peintures avant de mourir, mais malheureusement, il est mort. Raison pour laquelle il faut d'autres médicaments. Alors, parmi les autres, il y a les traitements immunosuppresseurs classiques. Il y a le méthotrexate. Le méthotrexate est un médicament qu'on utilise beaucoup dans la polyarthrite rhumatoïde. On peut l'utiliser aussi avec succès dans le syndrome de Sjögren et surtout pour les atteintes articulaires, il est souvent assez efficace. Mais malheureusement, incomplètement efficace, il y a relativement peu de patients qui arrivent à s'en sortir uniquement avec du methotrexate. Qui d'entre vous dans la salle prend du methotrexate encore? Donc il y en a pas énormément. Et il est certainement efficace, c'était bien montré, il est efficace, c'était bien montré dans la polyarthrite, c'était très mal démontré dans Sjögren. Il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui souffrent du Sjögren et les bonnes études sur le syndrome de Sjögren manquent. Donc on n'a malheureusement pas pu bien évaluer l'efficacité de beaucoup de médicaments. Donc des effets parfois puissants, mais généralement insuffisants. Ce qu'il faut savoir, c'est que il n'entre pas tout de suite en action, il faut attendre 2 à 4 semaines avant de percevoir les effets. Il y a beaucoup de patients qui se découragent à cause de ça. Et puis en plus, il y a beaucoup d'intolérance au méthotrexate, notamment les nausées. Il y a des patients qui simplement, en voyant l'emballage, commencent à avoir des nausées et à vomir. Ça peut arriver très très bien. Donc,
il faut changer l'emballage.
Et puis, des diminutions des globules, des plaquettes, des ulcérations buccales, des inflammations du foie, enfin toutes sortes de réactions qui sont réversibles. Globalement, elles sont réversibles, mais elles diminuent quand même l'utilisation possible du méthotrexate, surtout à bonne dose. Mais on continue quand même à l'utiliser beaucoup, ça reste un des premiers traitements de la polyarthrite rhumatoïde et un des bons traitements du syndrome de Sjögren. La RAVA a des effets qui sont semblables à ceux du méthotrexate, des mécanismes d'action d'ailleurs qui sont semblables aussi. Il est assez efficace, plus ou moins comme le méthotrexate. Il est mieux toléré que le méthotrexate, mais il a aussi des effets secondaires. Et un de ces effets secondaires, c'est de favoriser les polyneuropathies, donc les atteintes des petits nerfs qui vont dans les, qui vont partout, mais une polyneuropathie sera beaucoup plus perceptible dans les extrémités, il y a un long trajet des petits nerfs, notamment dans les pieds, donc, et cet ARAVA peut provoquer ce type de problème, et comme ça existe déjà dans le syndrome de Sjögren, c'est souvent difficile de l'utiliser, parce qu'on ne sait pas faire la part des choses bien entre une atteinte du syndrome de Sjögren ou un effet secondaire de l'ARAVA. Et puis donc, voilà tous les effets secondaires de l'ARAVA. Je crois que ce n'est pas la peine de rentrer en détail, mais il y a beaucoup d'effets secondaires. Pardon ?
Autant dans le Sjögren, il y a tout ça.
Alors, ça dépend. C'est bien que vous posiez cette question. Autant avoir le Sjögren que tout ça, d'abord, je dirais ça dépend, parce qu'il y a le Sjögren beaucoup plus grave que tout ça. Mais ensuite, tout ça, c'est ce qui peut arriver. Et la plupart du temps, ça n'arrive pas. La plupart du temps, une personne développe un ou deux effets secondaires. Mais quand on lit effectivement le mode d'emploi de ces médicaments, on est souvent affolé, découragé, on arrête. Souvent d'ailleurs, on essaye, mais on est tellement persuadé qu'on ressent des symptômes, qu'on va majorer cette sensation de symptômes, on ressentira des effets secondaires. Qui n'existe pas forcément, c'est ce qu'on appelle l'effet nocebo, qui est bien écrit. Et donc il faut réaliser que ces effets secondaires peuvent survenir, mais ce n'est pas du tout une fatalité. Et si vous lisez les effets secondaires de l'aspirine, c'est la même chose. Et si vous lisez les effets secondaires des sucettes qu'on achète à la Migros, de nouveau, vous aurez aussi beaucoup d'effets secondaires possibles. Donc,
ARAVA, c'est le flunomide, non, je ne sais pas quoi.
Le flunomide, exactement. ARAVA, c'est le flunomide.
Alors, moi, je peux vous dire, en fait, j'ai essayé, là, ça fait un mois et demi, j'avais des problèmes articulaires, psoriasis, et puis là, depuis 3-4 jours, le psoriasis sèche complètement, et puis j'ai moins de douleurs articulaires.
Ah oui, non, c'est un bon médicament, c'est pour ça que je le mets sur la liste, hein. C'est un bon médicament, mais il a des limites, donc on ne peut pas l'utiliser chez tout le monde. Alors, il y a les autres immunosuppresseurs classiques. L'Imlurec, c'est un médicament qu'on utilise depuis très longtemps, qu'on utilise dans les greffes, qu'on utilise d'abord dans les greffes. C'est un médicament qui est très bon marché, ça c'est un de ses avantages. Mais à part ça, c'est un médicament qu'on connaît bien et qui a souvent des effets spectaculaires chez certains patients. Alors je vous dis, chez certains patients, ça peut vous pas bizarre qu'il y ait tellement de différence d'un patient à l'autre. Mais on commence à percevoir un peu mieux pourquoi il y a tellement de différence. C'est parce que c'est pour beaucoup de raisons. Mais une des raisons, c'est que toutes ces maladies, la polyarthrite, ou le syndrome de Sjögren, ou lupus, une maladie cousine, sont des maladies dites polygéniques, qui sont déterminées non pas par un seul gène, mais par beaucoup de gènes. Et maintenant, on a mis en évidence, on a identifié des dizaines et des dizaines de variants géniques qui sont associés avec telle ou telle maladie. On en est à plus de 100 pour la polyarthrite rhumatoïde, beaucoup moins pour le Sjögren, parce qu'on l'a moins étudié. C'est certainement la même chose pour le lupus. Et puis, les différents patients vont hériter de leur père et de leur mère un lot de gènes différents d'un patient à l'autre. Et certains de ces gènes, d'ailleurs, sont partagés par plusieurs maladies, par la polyarthrite, par le lupus, par la spondylarthrite, par le Sjögren, par les hépatites auto-immunes, enfin, par toutes sortes de maladies. Raison pour laquelle certains patients auront telle ou telle atteinte, d'autres telle ou telle atteinte, et d'autres telle ou telle atteinte encore. Et puis en plus, il y a tous les facteurs de l'environnement. La génétique ne joue qu'un rôle petit dans ces maladies. Quand je dis petit, ça veut dire que ce n'est pas tout, ça joue un rôle important, bien sûr. Mais vous pouvez avoir des jumeaux qui ont exactement les mêmes gènes, et l'un développera la maladie et l'autre pas. Donc les facteurs de l'environnement jouent un rôle. On commence à les comprendre un peu mieux, mais pas encore bien. Et donc c'est un ensemble de toutes sortes de choses qui fera que la maladie de telle ou telle personne prendra cette forme-là ou une autre forme. Et si on étudie la biologie de différents patients avec un syndrome de Sjögren, même pour la biologie simple, on aura des différences. La CRP sera très élevée chez l'un, pas élevée chez l'autre. La vitesse de sédimentation variera aussi. Le fait qu'il y ait une diminution des globules blancs aussi. Et si on fait de la biologie plus fine, on mettra en évidence encore plus de différences. Et puis il y a des différences qu'on ne sait pas encore mettre en évidence. Et le futur de la médecine, c'est ça, c'est d'arriver à mieux caractériser les caractéristiques exactes de la maladie de chacun et d'ensuite lui proposer des traitements adaptés. Mais malheureusement, on n'en est pas encore là. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a beaucoup de variabilité d'un patient à l'autre, qu'on a un certain nombre de médicaments qui marchent bien chez certains et mal chez eux et inversement chez d'autres. Il faut tâtonner très souvent, il faut tâtonner, essayer, sans véritablement savoir. Et ça peut être très décourageant pour les patients, parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi le médecin comme ça essaye ce médicament, il dit « Ah non, ça ne marche pas, bon, on va essayer ça ». Ça ne fait pas très sérieux, mais malheureusement, à l'époque actuelle, c'est ça qu'on est très souvent obligé de faire. On a un certain nombre d'idées, on sait un certain nombre de choses, on sait que certains médicaments marchent mieux que d'autres, d'une manière générale, statistiquement, le Maptera fait partie de ces médicaments, c'est probablement le plus efficace à l'heure actuelle, mais malheureusement, il faut souvent encore tâtonner. Alors l'immurec est très souvent utile chez certains patients, mais pas chez tous, et il peut être par contre utilisé en association, par exemple avec le Maptera, par exemple avec d'autres médicaments. Le gros avantage de l'immurex, c'est qu'il peut être utilisé pendant la grossesse. Il n'y a pas beaucoup de médicaments qui peuvent l'être, mais celui-là peut. On a maintenant beaucoup d'expérience avec l'immurex. Le Celcept ressemble beaucoup à l'immurex, mais il est plus efficace, généralement mieux toléré. Son gros inconvénient, c'est que lui n'est pas utilisable pendant la grossesse. Il est encore un peu expérimental dans la mesure on le connaît très bien dans d'autres maladies comme dans le lupus. Vous savez donc probablement tous que le lupus est une maladie très cousine, d'ailleurs qui se chevauche très souvent avec le syndrome de Sjögren. Le Celcept est extrêmement efficace, c'est un des meilleurs médicaments à l'heure actuelle dans le lupus, mais on n'a pas encore assez d'expérience dans le syndrome de Sjögren. Cela dit, on l'utilise de plus en plus. Quand on tâtonne, on utilise très souvent le Celcept. Et il y a probablement parmi vous des gens qui utilisent du Celcept.
Ça, c'est en comprimé aussi ou bien ?
C'est les comprimés, oui. Personne ?
Oui, non.
Oui,
ouais. Et puis, ça a fait quelque chose ?
Ben, ça a stabilisé mon intestin. Mais pas sur le...
J'ai une question.
Oui ?
Et sur les enfants, sur les adolescents, exactement les mêmes traitements ?
Alors, tous ces médicaments peuvent être utilisés chez les adolescents, bien sûr, en faisant attention. Chez les jeunes filles qui pourraient tomber enceintes, parce que certains médicaments, comme notamment l'Arava, doivent être arrêtés longtemps, en tout cas 3 mois avant d'initier une grossesse. Mais d'une manière générale, on les utilise chez les enfants. Alors les anti-TNF. L'anti-TNF était la première classe de médicaments dits biologiques. Ça fait maintenant plus de 20 ans qu'on l'utilise dans la polyarthrite rhumatoïde, on a beaucoup d'expérience. Ça a transformé le pronostic et l'évolution de la polyarthrite rhumatoïde, mais ils sont peu efficaces dans le syndrome de Sjögren. Pour des raisons multiples, mais notamment, d'une manière générale, ils sont peu efficaces dans les maladies qui sont associées à des auto-anticorps comme le lupus ou le syndrome de Sjögren. Ou par exemple, les vasculites Tanka, qui sont d'autres maladies à auto-anticorps, là, les anti-TNF sont peu efficaces. Très efficaces dans la polyarthrite rhumatoïde, ils permettent d'arrêter ces fameuses érosions qui caractérisent la polyarthrite rhumatoïde. C'était les premiers médicaments avec lesquels on a vraiment bien bloqué les érosions. Mais malheureusement, dans Sjögren, ça marche relativement bien, mal. Il y a quelques cas décrits de patients qui ont bien répondu aux anti-TNF. Peut-être qu'une ou deux personnes parmi vous en prennent, mais d'une manière générale, c'est peu efficace. Et les gens, par exemple, qui avaient une polyarthrite rhumatoïde associée à un syndrome de Sjögren secondaire, qui prenaient un anti-TNF, allaient souvent mieux pour la polyarthrite, mais avaient toujours un syndrome sec très marqué. Et quand ils ont passé au MAPTERA, ont eu une nette amélioration de leur syndrome sec. Alors, quels sont les autres biologiques? Eh bien, il y a justement ce fameux MAPTERA, qui est donc un anticorps contre certains globules blancs, donc les lymphocytes B, ce sont des globules blancs qui produisent des anticorps, notamment les auto-anticorps qui sont généralement présents dans le syndrome de Sjögren, qui s'administrent sous la forme de perfusion simple, double, tous les 6 à 12 mois, parfois très efficaces à long terme, notamment sur certaines manifestations extra-articulaires. Donc, c'est probablement maintenant le meilleur médicament pour le syndrome de Sjögren, mais ça ne marche pas toujours immédiatement. Il faut souvent insister. Il ne faut pas hésiter à répéter une ou deux perfusions après 6 à 12 mois de manière à obtenir un effet. Et puis ensuite, on a souvent un effet qui devient progressif. Et puis par contre, quand ça marche bien, après, on peut parfois ralentir la fréquence des perfusions tout en gardant de bons effets. Alors, il a des effets secondaires, bien sûr, ce sont les infections. Avant tout, les infections. Donc il faut prendre garde à ça. Il faut faire un certain nombre de contrôles sanguins pour s'assurer qu'il n'y a pas trop d'évolution des anticorps totaux. Si on fait attention, généralement ça va. Mais il y a certains patients qui après beaucoup d'années, ne peuvent plus prendre le MAPTERA parce qu'il a trop diminué les anticorps et que ça ne devient plus possible. Cela dit, ce n'est pas une catastrophe parce que quand on l'arrête à ce moment-là, les anticorps progressivement remontent. On peut même donner des perfusions d'immunoglobuline, et puis ça se passe par quelques infections, mais généralement, la plupart du temps, on arrive à contrôler la situation, à rétablir la situation. Mais il y a eu quelques descriptions de cas particulièrement graves d'infections dues au MAPTERA. C'est une des raisons pour laquelle on ne l'utilise pas en première intention, mais la plupart du temps, c'est survenu chez les gens qui ne prenaient pas le MAPTERA pour une maladie comme le Sjögren ou comme le lupus, mais pour un lymphome. Le MAPTERA est un traitement qu'on utilise dans le lymphome à peu de doses, et dans ces lymphomes, où il y a d'autres médicaments d'ailleurs qui sont donnés, qui contribuent au risque d'infection, là on a eu ces cas d'infection graves. Les cas d'infection très graves sont à côté, à l'échelle mondiale, sur les doigts de la main, donc c'est peu de choses. Mais par contre, si on va sur Internet, on peut se faire peur en voyant quelques cas d'infection grave. Parmi les autres biologiques prometteurs, il y a l'Orencia. L'Orencia a l'avantage d'être perfusé toutes les 4 semaines. On peut maintenant le prendre aussi sous forme d'injection sous-cutanée, donc que les patients peuvent s'administrer eux-mêmes. Alors le fait qu'on fait des injections toutes les 4 semaines et pas tous les 6 mois, ça peut être un inconvénient, mais c'est aussi un avantage, parce que si on développe une infection, justement, avec le MAPTERA, on est embarqué dans une immunosuppression qui dure pendant 6 mois. Avec cela, on a une immunosuppression beaucoup plus courte. En plus, c'est un médicament qui est très bien toléré. Alors, J'ai un ou deux patients qui ont dit que c'était miraculeux. Il faut voir encore avec le recul comment ça va se passer. Il y en a d'autres qui ne répondent pas, comme toujours avec tous ces médicaments, malheureusement. Mais ça fait partie des médicaments avec lesquels ça vaut la peine, encore une fois, de tâtonner.
J'ai une question pour le mode terrasse. Moi, je travaille, je suis beaucoup en contact avec des microbes. Je suis aux premières loges, ce ne serait pas très recommandé. Alors par exemple, des bronchioles, des bronchites, enfin, toutes ces maladies, je suis beaucoup en contact.
Alors, je dirais que malheureusement, tous les médicaments sont efficaces, hein, pour bon, cet inconvénient-là. Mais c'est vrai que. Avec le fait que l'immunosuppression est prolongée avec le MAPTERA, vous risquez un risque supplémentaire. Mais, d'un autre côté, on a cette possibilité de perfuser les immunoglobulines, s'il le faut. Donc, je dirais que ce n'est pas vraiment une contre-indication rédhibitoire.
Moi, je travaille à l'hôpital, j'ai eu du MAPTERA, donc je n'ai pas eu d'infection. Bon, après, voilà, c'est ma situation. Hein. Je veux dire, je n'ai pas eu plus d'infection. Quoi que ce soit, alors que je travaille tout le temps avec des gens malades. Ouais. Mais bon, chez moi, ça n'a pas marché, ça, c'est autre chose. Voilà. Voilà.
Alors, il y a encore dans les autres biologiques l'Actemra. Ça fait partie des biologiques dont on dispose déjà maintenant. C'est un anti-L6 qu'on utilise beaucoup dans l'érythrocyte rhumatoïde, qui probablement est efficace chez certains patients, mais on n'a pas encore beaucoup d'expérience. Mais ça fait partie aussi des médicaments avec lesquels on peut tâtonner. Il y a beaucoup de médicaments qui sont en développement. On vit une époque en ce moment fantastique de ce point de vue-là, parce qu'il y a beaucoup de médicaments qui se développent, qui sont sortis, qui vont sortir. Il y a une recherche qui continue à se faire malgré les coûts de ces médicaments. Il faut dire qu'il y a des intérêts financiers pour ces compagnies pharmaceutiques à faire des gros efforts, pour les chercheurs dans les universités étudier tout ça. Donc il y a vraiment beaucoup d'avenir, je dirais, de potentiel pour des médicaments encore meilleurs que ceux dont on dispose maintenant.
Juste un contrôle, quelque chose que je ne suis pas sûr d'avoir bien capté. Sur celui qui finit en TA, je ne me souviens plus, le MAPTERA. Oui, MAPTERA. Oui. Est-ce que ça a un impact aussi positif sur le syndrome sec?
Oui. Alors, il est mal démontré. Les études qui l'ont fait n'ont pas réussi à bien le démontrer statistiquement. Mais il faut savoir que c'est très difficile de démontrer un effet sur les grandes populations à cause de la variabilité des patients, à cause du temps que ça prend pour montrer un bénéfice. Et par exemple, le MAPTERA, pour revenir à lui, qui est considéré maintenant comme un des deux meilleurs médicaments pour le lupus, n'a pas fait l'objet d'une étude qui a bien montré statistiquement que vraiment ça marche. Il y a deux études qui ont été faites sur des centaines de patients, mais on n'a pas pris les bons endpoints, c'est-à-dire les bons paramètres d'évaluation pour voir si ça marchait ou pas, et ces études sont restées négatives. Alors que d'autres études avec des médicaments que tous les gens qui ont l'expérience du lupus considèrent comme moins efficaces, comme par exemple Benlysta, ont fait l'objet d'études positives. Pourquoi ? Parce qu'ils ont tenu compte de ces résultats pour modifier les paramètres d'évaluation et puis finalement ils ont obtenu des résultats. Il y a aussi la façon d'interpréter les statistiques. Tout ça pour dire que, c'est pas parce que ça n'a pas été démontré que ça n'existe pas, même si c'est bien démontré que l'effet statistiquement n'est pas valable au niveau individuel, ça peut être efficace. Et puis finalement, il faut associer d'autres médicaments, vous trouvez une autre molécule, et il y en a d'autres encore, une fois, qui sont en développement.
On peut associer un biologique à un classique.
Oui, absolument. Ça se fait très souvent. Je dirais la plupart du temps. Alors maintenant, j'arrive à la dernière diapositive sur des médicaments. C'est les médicaments qu'on peut utiliser pour les manifestations neurologiques. Donc, le syndrome de Sjögren, quand il est sévère, peut entraîner des manifestations neurologiques qui peuvent être périphériques, notamment sous la forme de ces polyneuropathies qui peuvent être très douloureuses et gênantes. Mais sur des syndromes centraux, des méningites, des symptômes cérébraux, des chorées, des dépressions, des syndromes démyélinisants, ça ressemble à la sclérose en plaques, ça n'en est pas une, et des faiblesses, etc. Ça, c'est vraiment le syndrome de Sjögren grave, hein. C'est rare, mais ça existe. Alors, pour ces manifestations neurologiques, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on peut de nouveau utiliser le Mactera. Le Mactera est d'ailleurs un très bon médicament pour la sclérose en plaques, hein, puisque je viens de parler d'elle. On l'utilise de plus en plus dans la sclérose en plaques, et un médicament, le frère du Mactera, un autre médicament, tube de lymphocyte B, on l'utilise aussi. Et puis, on utilise parfois des immunoglobulines. Et dans des cas de polyneuropathie, les immunoglobulines peuvent avoir des effets souverains et spectaculaires. Mais là, il faut travailler avec un neurologue. Il faut voir s'il y a des signes de polyneuropathie qui peuvent correspondre, parce qu'il y a plusieurs sortes de polyneuropathie différentes. S'il y a des signes de polyneuropathie qui peuvent répondre à ces immunoglobulines, si c'est le cas, ben, ça vaut la peine d'utiliser des immunoglobulines. Oui.
Est-ce que vous avez, comme dans les manifestations neurologiques, est-ce que vous avez des cas avec des gens qui ont du vertige? Parce que moi, c'est mon cas depuis des années, puis j'ai jamais tellement su si ça venait du sud-graine ou pas. Mon rhumatologue dit ça coule, mais on ne peut pas le trouver.
Oui, alors ça fait partie du cortège de symptômes. Ce n'est pas forcément le cas chez vous, hein, mais ça fait partie du symptôme. Du cortège de symptômes pour plusieurs raisons. Ce qui peut d'abord être lié à des manifestations neurologiques, et puis aussi neurologiques directement pour la sensation des vertiges. Et puis, il y a souvent des atteintes du système dit neurovégétatif, c'est-à-dire système sympathique-parasympathique qui régule la tension artérielle, les battements du cœur, etc. Et ça peut être affecté dans
un problème aussi justement de tension qui est souvent basse, de cœur qui est un peu.
Alors c'est pas la seule cause, ça peut être autre chose, mais ça pourrait, ça pourrait. Si vous avez d'autres signes de polyneuropathie, alors...
Moi j'ai une neuropathie des petites fibres.
Ouais, voilà. Alors ça, dans la neuropathie des petites fibres, justement, ça vaut la peine souvent de donner des traitements assez énergiques, parce que ça peut être effectivement douloureux, pénible.
Parce que, alors moi, j'ai tout ce que vous savez, j'ai fini au CHUV, j'ai une paralysie vraiment faciale, bilatérale, j'ai des vertiges. Depuis, j'ai des fourmillements dans la tête, donc ça fait 2 ans. Je ne sais pas quel médecin il faut aller consulter pour ça. Mon neurologue me dit, vous venez quand ça aura empiré, mais c'est difficile à décrire ce que je vis vraiment, mais c'est au quotidien que ça m'handicape. Moi, j'ai vraiment beaucoup d'atteintes neurologiques avec cette maladie, mais je ne trouve pas un neurologue au CHUV non plus. Je ne sais pas chez qui aller pour
Je connais moins bien les neurologues du CHUV, je peux vous donner quelques noms de neurologues sur Genève.
Je crois que je vais sur Genève parce que je me sens très seule dans ça. Et puis c'est vrai qu'alors mon médecin qui est rhumatologue, c'est peut-être moins son domaine. Et ça m'handicape beaucoup plus les douleurs neurologiques que particulières. Mais ce que vous dites, c'est du quotidien.
Moi, c'est plus aussi tout ce qui est symptômes.
Oui, mais j'ai quand même fini avec une paralysie, donc je pense que c'est quand même peut-être à prendre au sérieux. Enfin, en tout cas, pour mon cas, je n'ai pas envie d'en faire une. Et puis, on ne veut toujours pas me donner ce Mactera, donc je suis surprise.
Ah oui. Qui est votre rhumatologue?
Bon, j'ai un bon contact avec, je ne voudrais pas vous le donner après, je vais en médecine, mais je pense que c'est un bon, mais tout le Mactera, là, il y a un blocage, alors que le syndrome sec, j'ai plus de salive, et c'est 100% sec, et je suis surprise qu'on refuse ce Mactera avec ses fourmis dans la tête, ça m'handicape pour aller travailler, pour les vertiges, ça me prend plein de travail, et je travaille avec c'est très handicapant.
Alors, ça, je suis persuadé que ça peut être très handicapant, absolument. Alors, à la décharge du médecin, les vertiges sont bien sûr non spécifiques. Ils peuvent survenir dans toutes sortes d'autres situations, notamment en stress et l'anxiété. Hein. Ça ne paraît pas être autre part.
Oui, ça peut être le stress.
Par exemple, l'anxiété d'avoir une maladie qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne contrôle pas, qui fait mal, etc., peut faire qu'on est anxieux. L'anxiété peut s'associer, par exemple, à l'hyperventilation, et l'hyperventilation peut être une source de vertige. Donc il peut y avoir beaucoup de choses. Alors peut-être que votre médecin a cette impression-là, mais en tout cas, il faut chercher si vous avez une neuropathie notamment une neuropathie des petites fibres, qui n'est pas facile à mettre à l'évidence.
Et ça, je l'ai aussi. Je ne sens plus le bout des doigts, les orteils.
Ça, ça arrive aussi régulièrement, mais quand je me sens bien, quand je me demandais, écoutez, le jour où ça serait vraiment grave, on vous hospitalise et puis on s'occupe de ça. Mais avant, c'est considéré entièrement.
Il faut dire aussi qu'il y a beaucoup des choses que je vous ai dit là qui ne sont pas connues depuis longtemps. Hein. Et ces médicaments du MAPTERA, par exemple, on n'a aucune étude qui montre que dans ce vol, c'est vraiment très efficace. On a maintenant quelques petites études qui montrent que ça l'est un peu.
On n'a pas assez de recul.
On n'a pas beaucoup de recul, exactement. On a un bon recul sur la polyarthrite rhumatoïde. Alors ça, c'est peut-être l'avantage des rhumatologues, c'est qu'ils sont habitués à la polyarthrite rhumatoïde qui est traitée depuis longtemps avec ce type de médicaments. Et ils ont moins peur d'utiliser ces médicaments. Ils les connaissent mieux souvent, en tout cas pour certains d'entre eux. Et ils les proposeront plus facilement, sauront mieux comment interpréter l'évolution, etc. Mais nous, il y a des immunologues qui connaissent ça très très bien.
Alors peut-être, j'ai une dernière question, je ne vais pas monopoliser, mais aussi ce qui est curieux dans tous les symptômes, je pense que j'ai une forme sévère qui a quand même été décrite de la maladie, mais la vitesse de sédimentation, elle, ça ne m'apparaît pas du tout là-dedans. Je pense que c'est ça qui fait un blocage pour mon rhumatologue.
Ça, c'est très possible.
Je suis sûre que c'est ça maintenant à vous entendre.
Ça, c'est très possible. Alors, ça, c'est un des problèmes qu'on a avec le diagnostic. C'est un problème majeur qu'on a quand il faut interagir avec l'AI, ou avec des assurances, parce que souvent c'est difficile de démontrer l'activité de ces maladies. Alors maintenant, on dispose de tests un peu plus fins, plus sensibles, notamment des levages de cytokines. Donc on peut doser l'IL-6, on peut doser le TNF, l'IL-1RA, enfin d'autres cytokines qui jouent un rôle dans ces maladies immuno-inflammatoires. Et on commence à bien maintenant mettre en évidence le fait qu'il y a des gens qui ont des maladies qui sont très inflammatoires, une très forte augmentation de ces cytokines, mais une CRP-IS tout à fait normale. Et c'est une des caractéristiques du suivant, c'est que la CRP et la vitesse de sédimentation restent très normales.
Donc
c'est
souvent, c'est pas vraiment
très légèrement, mais toujours très légèrement.
Exactement.
C'est bien, c'est ça. Ouais. Ce que je voulais dire, c'est qu'on m'a fini suivi au CHUV aussi, mais c'est en DIA qui est il y a même quand les années qu'on n'est pas mis dans le sang, rien du tout, mais elle a tous les autos en dessous. Et puis ma nièce aussi qui est la fille de mon frère. Donc dans notre famille, c'est un peu génétique parce qu'il y a pas une mélange de sang, c'est assez des cousins-cousins qui sont mariés ensemble. Et ce qui fait que nous, on est un peu souche, on nous a dit que c'était héréditaire. Et on a cette possibilité-là. Donc ils refusent aussi de médicaliser, en fait, donc aucun médicament. La seule chose qu'ils ont proposé, c'est de faire de l'auto-hypnose. De temps en temps, elle donne un anti-inflammatoire quand c'est la catastrophe, ça ne fonctionne pas non plus. En fait, avec les enfants, les adolescents, je vois qu'ils les laissent un petit peu de côté parce qu'ils n'osent pas, je pense, tester tous ces médicaments foires. Et après, ils confondent donc la fibromyalgie et le chocal. Alors, si vous avez un peu les deux, c'est ce qu'ils montrent que ma fibre est les deux, depuis l'âge de 3 ans, c'est ce qu'ils nous disent qu'elle est assez éloignée. Ils n'aident pas avec les médicaments. Et elle souffre. Elle se trouve la moitié de sa vie à l'hôpital à gauche à droite. Nous, on fait toutes les urgences, l'hôpital de l'enfant CHUV, on a fait. Mais c'est vraiment le cours du combattant.
Ce qu'on fait généralement, c'est vrai, c'est parfois très difficile de faire la part des choses. Surtout pour les maladies qui évoluent depuis longtemps. Donc, on peut faire ces dosages plus fins. Et puis, on peut faire les tests à la prednisone. En principe, la prednisone n'a pas d'efficacité sur la fibromyalgie. Donc, quand on ne sait pas bien si un symptôme est attribué à ça, la prednisone est un bon test sur un mois. On donne des relativement hautes doses sur un mois et puis on regarde ce qui se passe. Malheureusement, sur beaucoup de symptômes, la prednisone sera inefficace. Pourquoi ? Parce que, par exemple, la polyneuropathie, il y a une altération morphologique des fibres. Ce n'est plus uniquement inflammatoire. Ça peut être régressif sur le long terme, hein. Les fibres peuvent se régénérer, mais en un mois de prednisone, ça ne suffira pas et on n'arrivera pas à mettre en évidence un avantage. Donc c'est parfois très difficile. Alors, mais on peut utiliser des NMG, on peut utiliser ces dosages de cytokines, et puis quand on a des auto-anticorps qui sont très élevés, comme le FAN, les anticorps anti-SSA, etc., on a généralement des arguments assez forts pour aller plus loin. Oui.
J'ai beaucoup de mémoire et de concentration. Ça m'effraie.
Ah oui, pour deux raisons. Ça a été décrit dans la fin de M. Brenne. Ça peut être associé éventuellement à une activité inflammatoire au niveau cérébral, c'est possible, mais ça peut aussi être associé au stress pendant une maladie, ça peut être associé au trouble du sommeil pendant une maladie, ça peut être associé à la dépression pendant une maladie. Donc il y a plusieurs possibilités.
Ouais,
alors c'est vrai, en fait. Oui, oui. J'ai d'ailleurs, j'ai encore une diapositive sur la fatigue du syndrome de Sjögren qui est vraiment un gros problème. Hein. C'est généralement un énorme problème. Alors là aussi, qu'est-ce qu'on peut faire? Et vous voyez, c'est le MacTerra qui est tout en haut de la liste pour la fatigue. Les effets-là ont pu être démontrés. Les effets démontrés sont faibles, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas forts, mais on a pu démontrer des effets faibles, ça veut probablement dire que c'est un bon effet. Et puis la prednisone à petite dose, ça peut être très efficace, mais encore une fois, c'est difficile, mais pourquoi pas la prendre ponctuellement. De nouveau, si on a le mariage de sa fille, ou son mariage, ou Dieu sait quoi, on peut prendre la prednisone pendant deux semaines, et puis faire face à certaines choses, comme ça. Voilà, parce que maintenant, à l'heure actuelle, le but du traitement du Sjögren, c'est d'essayer d'arriver à ça chez tout le monde. Alors, on n'y arrive pas encore chez tout le monde, hein, mais ça vaut la peine de tâtonner, d'essayer, parce qu'on a les moyens, et de ne pas se dire simplement « non, on n'y arrivera pas, l'innovation n'a pas marché, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Oui. »
Vous avez une idée, qu'est-ce
que vous pouvez me dire? Non, je ne suis pas sûr qu'on me dirait ce que je demande. Mais j'ai aucune idée.
C'est le meilleur moyen.
Sauf parce que j'ai pas compris ça. Je ne voudrais pas citer les
comment ça s'appelle millions
des cellules souches. Ça doit faire cellules souches.
Il n'y a vraiment aucune évidence. Il n'y a pas non plus, je dirais, d'évidence conceptuelle pour ça, pour les cellules souches.
D'accord.
Ce qu'on a fait, c'est des greffes. De cellules électroïdes hein, dans le lupus. Ça, c'est pour faire. Et dans la sclérodermie. La sclérodermie est aussi une maladie cousine du sieur. Et dans l'état très grave, à une certaine époque, notamment en Suisse, à Bâle, on a fait des greffes de moelle hein, qui contenaient des cellules souches après avoir donné des traitements. Mais c'est des traitements extrêmement lourds, avec une grosse mortalité. Et puis, finalement, maintenant, on a de meilleurs traitements. Beaucoup. Plus efficace probablement, en tout cas aussi efficace, mais beaucoup moins toxique. Parce qu'il y a des cellules souches, je ne sais pas à quoi vous faites allusion, mais probablement en fait qu'on prend des cellules souches je sais où, et puis qu'on...
Je sais où.
Ouais. Mais ça, c'est pas... Il n'y a pas d'évidence clinique prouvée, et il n'y a pas d'évidence conceptuellement.
Est-ce que c'est une voie de recherche encore, ou pas?
Je ne pense pas. Sincèrement, je ne pense pas. Pour ça, cette maladie-là.
Ce
qu'on pourrait éventuellement imaginer, c'est un resetting du système immunologique, c'est ce qu'on fait dans ces greffes de moelle, c'est-à-dire qu'on prélève des cellules de la moelle osseuse des patients, on les traite, on irradie les patients, ensuite on leur donne une chimiothérapie très forte et on réinjecte.
C'est ce que j'ai
vu. Ça se fait dans la sclérodermie. Le principe, c'est un resetting, c'est-à-dire qu'on remet à zéro le système immunitaire, mais à mon avis, c'est pas valable parce que la personne garde une gène, garde les trois mêmes facteurs de l'environnement, et puis en plus, c'est extrêmement toxique. Donc ça ne se fait pas pour ce jour. Et ça ne se fait pratiquement plus pour la sclérodermie.
Dans les approches non médicamenteuses, c'est ce que je voulais dire.
Pardon?
Dans les approches non médicamenteuses.
Alors, non médicamenteuse.
C'était dans le titre.
C'était dans le titre.
Les humidificateurs.
Voilà, il y a les humidificateurs. Mais, non, mais on peut en parler quand même. Je vais répondre à cette question quand même. C'est une bonne question, hein, c'est une très bonne question. C'était peu étudié dans le Sjögren, c'était plus étudié dans la polyarthrite rhumatoïde qui est quand même plus fréquente, alors que finalement, on l'a considéré comme plus fréquente, alors que maintenant on considère que la prévalence du Sjögren est presque équivalente à celle de la polyarthrite rhumatoïde, mais c'est moins étudié. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que il y a les graisses à base de poisson, les huiles de poisson, ont un effet général sur l'inflammation. Et l'huile d'algue aussi. Donc, il vaut mieux manger, en termes d'inflammation, plus de poisson que de viande de mammifère. Par contre, il y a le problème de la source du poisson, qui n'est pas évidente. Manger que du poisson, ça peut être dangereux. Les algues, ça peut être un. Ça peut être défendable, c'est certainement une bonne approche. Mais c'est pas miraculeux. C'est pas miraculeux, mais ça peut aider. Il faut une bonne alimentation générale, mais pour tout le reste, il n'y a rien qui, malheureusement, qui a pu être démontré. Par exemple, les régimes sans lactose, ça n'a pas été démontré sur le plan statistique. Probablement qu'il y a quelques patients qui sont allergiques pas au lactose, au protéines du lait, et puis qui développent des arthralgies ou des choses comme ça. Mais statistiquement, ça n'a pas été démontré. Si quelqu'un a vraiment l'impression que la consommation de produits laitiers augmente ses symptômes, ça vaut la peine d'essayer de les arrêter, si possible de manière très rigoureuse, c'est-à-dire d'arrêter les produits laitiers complètement pendant 3 mois, voire sans faire d'autres changements thérapeutiques, puis voir si ça a un impact ou pas. Si on a l'impression que ça en a un, reprendre les produits laitiers pendant 3 mois et les réarrêter pendant 3 mois, et si on a vraiment la conviction que oui, ça amène un bénéfice, alors pourquoi pas. Mais il faut savoir que sans projeter, c'est difficile. Le lait est important, mais pourquoi pas. Et puis, il y a aussi beaucoup de choses qui ont été dites sur le gluten, que vous avez probablement entendu. Là aussi, il n'y a pas d'évidence statistique, aucune, hein, aucune. Mais il y a des patients qui disent à l'huile, c'est très possible. Alors là aussi, il faut essayer d'une manière rigoureuse.
Je voulais dire que quand on m'a découvert le cerveau, j'avais mal partout. Et il y a plus de 15 ans, et je suis allée au CMU, j'ai regardé cette année, il y a ceux qui faisaient les dossiers, qui m'a dit: vous ne connaissez pas Boswellia serrata, c'est un anti-inflammatoire naturel, et je le prends depuis 15-16 ans, il n'a aucun effet secondaire, j'ai beaucoup moins mal, et ma maladie n'a pas du tout augmenté. Elle n'a pas guéri. Mais elle n'a pas du tout augmenté. Alors voilà, si. Je le dis quand même parce que ça m'a vraiment aimé. Mais il ne faut pas avoir la polyarthrite rhumatoïde, hein, c'est sûr.
Alors, cela dit, le salon de Sjögren peut être plus grave que la polyarthrite rhumatoïde. Il y a des polyarthrites rhumatoïdes bénignes, c'est la même chose que le Sjögren. Il y a toutes les formes, des formes très bénignes et des formes très graves. Il y a clairement des Sjögren qui sont plus graves que certaines polyarthrites rhumatoïdes et inversement. Pour ce Boswellia, probablement qu'il avait un effet statistiquement fort, ça aurait été démontré. Cela dit, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas encore. Hein.
C'est ayurvédique, ça.
Il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas, et je ne dois pas dire que c'est parce que ce n'est pas démontré que ça ne marche pas. Mais les gens qui vendent ce produit, si vraiment il est très efficace, on va essayer de faire des tests, des études. Et puis, probablement, on aurait pu démontrer l'efficacité. Si c'est efficace, ils peuvent le vendre plus cher, vous savez. cela dit, non, mais vous avez peut-être bien raison, j'en sais rien. Vous avez très
justement raison. C'est de l'arbre en sens.
Ouais. Vous avez peut-être bien raison, et il y a des molécules. Vous savez, par exemple, la cytosporine, si je suis déjà dans les plantes. Et ensuite, on est isolé et on l'a purifié pour qu'elle soit plus efficace. Il y a beaucoup de choses qui viennent des plantes. C'est très possible que dans quelques années, on ait déjà la pratique active des plantes qui sortent. Oui,
oui, oui. Excellent. Voilà, exactement. Ça, c'est la meilleure. On va dire tout à l'heure. encore, c'est si j'avais pas été là pour écouter tout ça, j'aurais appris ça où et comment. Ça y est.
Alors, c'est une question. En principe, au fil d'une bonne relation avec son médecin, on devrait aborder progressivement tout ça. Mais c'est vrai que c'est pas toujours possible.
C'est après combien de temps?
Ça peut être ça.
La question, c'est ça, quand ça fait un an, deux ans, trois ans, on ose leur dire, mais on peut tester si c'est ça.
Ah oui, bah bien sûr.
Non, parce qu'on se sent un petit peu comme un pion qui est à gauche, à droite, puis il y a trois ans qui se sont écoulés, puis rien.
Alors, je pense clairement qu'il y a des médecins qui connaissent ça, et d'autres médecins qui connaissent d'autres choses. Hein. Donc, il faut se renseigner un peu, ne pas hésiter à demander un ami dans un hôpital, ou leur son immunologie, ou leur son immunologie. Et puis, il faut ensuite les orienter vers des patients, des médecins en ligne, des médecins, ou des médecins médicaux, parce que ce sont des possibilités parmi eux. Et puis, je pense que dans votre groupe, vous pouvez aussi échanger sur les médecins qui connaissent le. La problématique, c'est que visiblement, en entendant ce que plusieurs d'entre vous ont dit, il y en a qui connaissent très très bien.
Vous savez que souvent, pour aller voir un spécialiste, il faut une recommandation de son médecin, par exemple.
Oui, mais alors là.
J'essaie d'avoir un rendez-vous avec vous, avec une lettre de votre médecin. Mon médecin, je le connais depuis 25 ans, ça me gêne un tout petit peu d'une journée d'aller chez quelqu'un comme un médecin.
C'est une question d'assurance.
Non, c'est une question de. Non, si vous avez une recommandation.
Oui. Ça peut être problématique, effectivement.
Parce que cette fois, on est des fois dans des situations où elles vont faire du tourisme médical et essayer de mettre ça en état. C'est si long, on se rend compte si ça va bien ou pas. On commence, on a l'impression que ça va. Moi, mon médecin, il m'a dit bon, c'est pas de chance, ça ne fait pas d'effet, mais on ne va pas l'arrêter. Vraiment, j'avais un peu scié, mais je n'ai pas pensé à aller pourquoi. J'étais en train de me dire. C'est vrai que c'est après, c'est embêtant, il y a un peu aussi.
Cela dit, c'est pas une erreur, je crois, de ne pas l'arrêter. C'est certainement pas une erreur parce qu'on n'a pas pu démontrer son effet scientifiquement, on a d'autres molécules maintenant. Peut-être qu'il a raison. Donc c'est difficile. Ça a été démontré que ça servait à rien. C'est une étude qui a montré ça, mais il y a encore une fois une étude qui a montré que le mapterin ne servait à rien en lupus, alors qu'on sait que ça marche. Mais on n'a jamais été bouleversé par les effets du platénil en traitant les patients. Et je dirais que les résultats de cette très bonne étude française ne nous ont pas surpris. Ouais.
Une des autres traitements dont vous parlez, c'est s'il y a autre chose qu'un syndrome sec, tous les immunosuppresseurs, si on a vraiment un syndrome sec très avancé, mais sans arthralgie ou autre.
Alors, c'est ce que je disais au début, c'est rare qu'on donne des immunosuppresseurs ou des traitements vraiment très énergiques quand il n'y a qu'un syndrome sec. Mais ça peut se discuter. Ça peut se discuter pourquoi? Parce que le syndrome sec peut être extrêmement invalidant, d'abord. Quand il est sévère et qu'on est obligé de recourir à des sérumatologues ou des opérations, des trucs comme ça, ça peut être très invalidant. Ça vaut la peine probablement aussi d'essayer ce que vous avez essayé, ces lentilles. Ça peut bien marcher chez certains. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si le syndrome sec se prolonge, l'inflammation de la glande, des glandes va entraîner une fibrose et une destruction du tissu glandulaire, et finalement, on n'en aura plus. Et dans ces cas-là, si on a des évidences par la biopsie qu'il y a une forte inflammation, un début de fibrose, et que c'est très invalidant, je dirais qu'un traitement peut se discuter. C'est relativement rare que le syndrome de Sjögren sévère à ce point ne touche que les glandes, qu'il n'y ait pas une fatigue, des douleurs articulaires ou d'autres manifestations, mais ça peut se discuter, ça doit se discuter ouvertement quels sont les avantages, quels sont les inconvénients. La salive et les larmes ne sont pas essentielles pour la vie. Les traitements dont on dispose très rarement ont entraîné des décès. Donc il y a beaucoup de médecins qui diront non, c'est vraiment contre-indiqué. Mais si c'est très invalidant et compte tenu des attentes du patient, compte tenu de l'ensemble de la situation, ça, ça peut se discuter. Oui.
Est-ce qu'on connaît un peu mieux les attentes cardiaques dans le syndrome de Sullivan actuellement ou pas? Est-ce que c'est pas quelque chose qu'on trouve beaucoup dans les livres?
On n'en parle pas beaucoup, c'est pas très connu. On sait qu'il y a des choses simples, des belles cardiaques, ça c'est assez fréquent, c'est pas très grave, ça peut être embêtant, ça peut être grave d'ailleurs même, ça en connaît assez bien. Il peut y avoir des troubles de la régulation cardiaque à cause des atteintes du système neurovégétatif, dont je vous ai parlé. L'atteinte du muscle cardiaque, conceptuellement, elle est possible. Parce qu'on sait qu'il y a des atteintes du muscle, clairement, avec des élévations, des enzymes musculaires dans certaines formes de Sullivan, et qui sont, je dirais, accessibles en thérapeutique par les traitements dont on dispose. Et comme les hémorroïdes font partie du spectre du Sullivan, c'est possible. Ce qu'il faut dire, c'est que la véritable atteinte cardiaque, elle est bien démontrée dans certaines formes de comédie, mais rares, et puis dans la scléroderme, et probablement pour d'autres raisons qu'une atteinte uniquement cardiaque, parce qu'il y a une fibrose des tissus dans la scléroderme. C'est-à-dire qu'il y a des formes de chevauchement, mais pour l'atteinte purement cardiaque, du tissu cardiaque, il faut que je me renseigne, même moi, ça ne me vient pas à l'esprit. Comme ça, je n'ai pas, pas cette question. Il y a des tests à faire. Là, si on a l'impression qu'il y a, vous êtes au courant probablement, hein, de faire toutes sortes de tests, des ultrasons, pour voir s'il y a des molécules en ligne, justement pour voir s'il y a des signes de fatalité.
Merci.